Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire à la déficit et donc je suis content.
Oh mon Dieu, de bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Je terminerai en vous disant simplement sié-sié et puis c'est tienne.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue en direct jusqu'à minuit, l'after en direct sur RMC et en direct sur la chaîne YouTube de l'émission after-foot avec ce soir Stéphane Guy qui est là. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Vous le savez, l'after, votre espace de liberté, votre espace d'expression, à vous les supporters de foot. Et l'événement ce soir, messieurs, c'est la présence parmi nous dans quelques petites secondes de Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, qui réalise une saison extraordinaire. On va pouvoir lui poser toutes les questions qui nous brûle les lèvres dans quelques instants. Et puis le titre du PSG sera également au programme, le 12e. Daniel veut en parler, ce sera dans une demi-heure. Évidemment, on essaiera de mettre en perspective par rapport aux autres titres, ce qui s'est passé ces dernières saisons, notamment, et puis l'avenir, le 32-16 supporter parisien est ouvert. Après 23h, on débattra des forces en présence à 3 jours de la fin concernant la course aux places européennes, concernant la course au maintien, et nous donnerons avant minuit notre avis sur la sonorisation des arbitres qui a été annoncée ce matin officiellement et qui entrera en vigueur la saison prochaine en Ligue 1, voilà. Dans certaines circonstances, hein, pour l'instant. C'est très précis, vous allez voir.
Comme je l'expliquais la semaine dernière, il y a des problèmes graves dans l'arbitrage. On a essayé de les décrire, de dire pourquoi. Et j'avais dit, vous verrez que la seule réponse, ça va être ce gadget de la sonorisation, en pensant que parce que quelqu'un explique son erreur, ça va mieux passer. Ok, bah continuons avec des arbitres et sans se soucier de leur formation, de comment ils sont nommés et pourquoi.
Le
et
débat tout à l'heure, Daniel.
Voilà.
Lâche pas tout de suite.
Il est fort.
Et puis on a un direct Ligue 2 ce soir, puisque Dunkerque reçoit Auxerre, le leader, Jean Bommel. Bonsoir, salut Gilbert.
Salut Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Stéphane. L'heure de jeu et Auxerre qui vient d'égaliser suite à ce joli but inscrit par. J'ai perdu son nom.
Ah bah ça c'est un problème.
C'est un gros souci. C'est Sina Yoko.
Lilian Lasland.
Non, Sina.
Enzo Chiffon.
Sina Yoko. Il y en a un qui centre collègue. Sina Yoko qui va.
Patrice Cocard.
Lasland.
Christophe Cocard.
Pascal Veilleruat. Pascal Veilleruat. Christophe Cocard, bien sûr, pardon.
Donc Sina Yoko, tu dis, hein, Diego.
Ouais, Sina Yoko. Non, ouais, voilà. Gros trou de mémoire de ma part, désolé. Centre gauche donc de Gaëtan Perrin, reprise. C'est logique, hein, de voir l'AG Auxerre revenir, parce qu'ils ont dominé ce match. Ils se sont fait vraiment surprenants en première mi-temps par l'ouverture du score à la 20e de Yacine sur un duel remporté face à Léon. Et donc pour l'instant, on va dans. Pour la montée, ben, je sais prendre un petit point d'avance.
Ta liaison est complètement pourrie, on va te reconnecter parce qu'on comprend rien. En tout cas, il y a un partout entre Dunkerque et Auxerre et on est en deuxième mi-temps.
Tu rappelles Dominique Cuperli, c'est urgent.
On te rappelle. Et puis c'est la mi-temps en Espagne entre le Barça et Valence. Surprise, Valence mène 2-1 à la mi-temps à Barcelone sous la pluie au stade de Montjuïc.
C'est encore beaucoup illustré.
Exactement.
Grande finesse.
Le public est un peu déserté parce que c'est un stade qui n'est pas couvert. Donc tu te prends la pluie dans la tronche. Moyennement agréable. Il y a un autre stade où parfois on se prend la pluie dans la tronche, c'est Brest. Ah oui, non, mais c'est vrai, toutes les tribunes ne sont pas
ça
protégées.
Dépend. Si tu es au balcon de l'immeuble en face,
ah oui.
Tu peux t'abriter.
Là, t'es bien. Et on a la chance d'avoir avec nous Grégory Lorenzi, directeur sportif.
Et lui, il n'est pas sous la pluie quand même.
Du stade Brest, je pense pas. Il est bien protégé. Ouais. Bonsoir, Grégory.
Messieurs, bonsoir à vous.
Oh, bonsoir, bah attendez, parce qu'il y a un nouveau but pour Auxerre, Jibo.
Ah, bah, il est plus.
2-1 pour Auxerre, on le retrouve tout à l'heure. Excusez-nous, voilà. Grégory, mais c'est la Ligue 2. Hein, parfois, ça s'enflamme.
But de Marama Bayer.
En direct, Gaëtan Courtet contre son camp.
Ah ben bah, voilà, merci pour notre envoyé spécial, voilà. Grégory Lorenzi.
c'est une vraie question. Ça, qu'est-ce qu'un sudiste comme vous est allé faire dans ce club le plus à l'ouest de la France?
Le soleil, bien évidemment. Ça, voilà, il y en avait pas assez, donc il fallait pour moi prendre un petit peu plus de pluie, donc c'est pour ça que avec plaisir on est venu goûter aux joies de la Bretagne, voilà.
En tout cas, en plus, je crois qu'on en avait parlé tous les deux pour un numéro de la revue de l'After du rôle des directeurs sportifs en général et donc du vôtre à Brest. C'est quand même une sacrée aventure et une aventure, j'ai envie de dire, que vous pouvez revendiquer parce que à Brest, il y a un président qui est présent certes, mais qui n'est pas dans vos pattes parce que il fait tout ce qu'il faut pour le bien du club, mais c'est pas un dingue de, enfin, comment dire, c'est pas un dingue de foot, c'est pas un grand connaisseur de foot. Donc, il vous laisse travailler. Chacun est à sa place dans le, dans ce club. Et ce que vous avez réussi à construire, vous, depuis, des années maintenant, je sais pas si c'est un aboutissement, je sais pas si vous-même, parce que Brest aurait très bien pu travailler au-delà de bien, sans faire la saison que vous faites cette année, sans viser la Ligue des Champions, parce que Brest qui travaille bien en étant 6e, 7e, 5e, c'était déjà sacrément bien. Mais là, vous faites encore mieux. Est-ce que, Greg, vous aviez vous-même imaginé que ça pouvait être aussi bien ?
C'est vrai qu'au départ, quand on a la chance de, voilà, d'avoir un rôle important dans un club professionnel, à l'époque, on était en Ligue 2. C'était pas forcément facile parce qu'on avait 8 joueurs sous contrat. On n'avait pas d'entraîneur, on avait une nouvelle équipe dirigeante qui arrivait, donc moi avec mon président, très peu d'expérience à ce niveau-là, et le voir 8 ans après aujourd'hui, acter une compétition européenne pour la saison prochaine et être aujourd'hui à la lutte pour les derniers places de Ligue des Champions, c'est magique. Voilà, c'est vrai qu'il y a un bout de chemin qui a été fait. Comme tu le disais ou vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a un président qui préside tout simplement.
Ouais.
On a un directeur qui essaye d'avoir un projet sportif à développer, à mettre en place, et puis un entraîneur qui entraîne, qui coach, qui fait progresser ses joueurs, et puis les joueurs qui prennent beaucoup de plaisir, qui donnent beaucoup de plaisir également, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires quand c'est saison.
Est-ce que ces choses extraordinaires, honnêtement, elles vous surprennent? Le groupe, c'est vous qui l'avez façonné. Vous connaissez les joueurs quand vous les recrutez, bien sûr. Je sais comment vous bossez. Mais de là,
vous imaginiez quoi l'été dernier?
Être deuxième ou troisième de la Ligue 1 avec ce groupe-là. Moi, je veux bien que surperformer, c'est génial. Mais est-ce que vous les connaissez mieux que personne, ces joueurs? Vous pensiez qu'ils pouvaient être à ce niveau?
Non, on va être réaliste. De toute façon, quand on est Brest, on sait très bien que le plus important et l'objectif prioritaire, c'est de se maintenir. Quand on vit une saison comme on a vécu l'année dernière, très compliquée, avec un début de saison où on est relégable, et on fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et on arrive à se maintenir à 3 journées de la fin. Donc quand on démarre ce championnat cette année, bien évidemment, on ne voit pas autre que d'avoir un maintien en bout de saison. Et aujourd'hui, quand on commence la saison, et quand on voit ce que les joueurs sont capables de faire et ce qu'ils ont surtout produit depuis cette première partie de saison, ben on se dit que peut-être ça va pas durer parce que bien évidemment les gros rentreront dans leur dans la case, on va dire, et que peut-être les petits retrouveront leur place. Mais force est de constater que depuis aussi cette deuxième partie de saison, l'équipe a continué à être en progression constante et qui fait qu'aujourd'hui on est aujourd'hui au port de la Ligue des Champions. Je pense que c'est pas le hasard, bien évidemment, parce que si on est là, c'est que les joueurs le méritent, c'est qu'il y a aussi un travail qui est fait notamment de la part des différents staffs. Mais après, bien évidemment, qu'aujourd'hui ça perturbe parce que voir Brest aujourd'hui, ben on s'y attendait pas du tout. Mais encore une fois, on va pas gâcher ce plaisir et surtout minimiser ce qu'on su faire jusqu'à présent les joueurs.
Parce que ça perturbe qui ? C'est vous qui êtes perturbé ?
Non, les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui.
Vous faites allusion à ceux qui disent oui, Brest en Ligue des Champions, c'est pas forcément bien pour le foot français ?
Je vous dis sincèrement, je vais pas m'arrêter à ça parce que honnêtement, je vous dis sincèrement, je m'en fous. Excusez-moi de parler comme ça, je m'en contrefiche. Moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain, est-ce que l'équipe produit. Si aujourd'hui l'équipe est là, c'est que bien évidemment, c'est pas le hasard. Alors on peut toujours reprendre bien évidemment des excuses. Oui, mais Paris n'est pas bon. Oui, mais Lyon n'a pas été bon. Oui, mais c'est Lille qui a mal joué. À un moment donné, moi, ce qui est le plus important, c'est quand on voit une équipe qui joue sans complexe, qui à un moment donné, même quand elle gagne 3-1, elle a envie de marquer un quatrième, et puis parfois, à défaut, de perdre un match. Comme à Rennes, ce week-end, quand on gagne 4-2, on a envie de continuer, et puis finalement, on se fait égaliser, et puis ce qui est beau, c'est qu'on continue à y croire, et que finalement, on gagne 5-4. C'est aussi un petit peu ce qui fait la beauté de cette équipe. C'est qu'elle
ce match-là, c'est votre plus gros kiff de la saison, Grégory, quand vous avez vécu ça dimanche, là, c'est le match qui vous a le plus transporté, ou il y en a eu d'autres avant?
Mais je pense que en termes d'émotion, ce qu'on a connu cette année à Lyon et ce qu'on a connu ce week-end à Rennes, il est difficile pour moi de faire d'avoir plus fort, parce que on est passé par toutes les émotions, on est passé par tous les scénarios possibles. Et à mon avis, forcément, quand on est directeur, ce qui est compliqué, c'est qu'on le maîtrise pas. Et moi, quand je vois mon défenseur à la 94e, mon défenseur droit, aller à l'opposé du terrain pour faire une longue touche, alors que je me dis que déjà prendre un point à Rennes par rapport au scénario, c'est exceptionnel.
Et surtout, ça validait l'Europe, le point.
Et qu'il y a des tarés sur le terrain qui disent non, on va y aller pour gagner. Donc des fois, je me dis, ils sont pas lucides. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette équipe, c'est que elle joue vraiment sans complexe et comme elle a fait depuis le début de saison. Et c'est ce qui nous anime et ce qui, je pense, rend aussi beaucoup de plaisir à nous, les Brestois. Maintenant, après, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Brest, pas content parce qu'ils vont faire une Coupe d'Europe. Je vous dis, chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne pourra pas nous l'enlever et personne ne pourra aujourd'hui contredire ce que font les joueurs, parce qu'encore une fois, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent et tout simplement, c'est peut-être aussi l'année d'une équipe comme Brest.
Non, mais en fait, Greg, je pense que surtout, parce que moi, dans la première partie de saison, j'ai certainement fait partie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite équipe qui fait ça, je suis toujours en train de me demander, mais comment font nos locomotives pour la Ligue 1? C'est jamais bon de voir des Marseille et des Lyon qui traînent. Sauf que la force de Brest a été, au fur et à mesure de la saison, d'éliminer cette idée et de dire exactement ce que tu viens de dire il y a deux secondes. T'as rien volé. Vous avez tout mérité, non seulement par le jeu, par la continuité tout au long de la saison, qui fait qu'on a oublié l'idée que certains clubs n'ont pas été à la hauteur et que c'est un petit qui va aller jouer la Ligue des Champions. Hier, pendant le match, j'ai échangé avec Walid, je lui dis, mais franchement, ce que fait Brest, on parlait de la qualité du jeu, hein. Il me sort cette phrase assez drôle, il me dit, honnêtement, moi je m'en fous, qu'ils aillent jouer la Ligue des Champions, même s'ils prennent des raclées contre le Real Madrid, c'est pas un problème. Ils ont largement mérité ce qu'il faut. Et je lui ai dit, ouais, t'es vrai, t'as raison, on s'en fout. Maintenant, faut qu'ils y aillent et qu'ils continuent leur kiff, parce que vous méritez mille fois, avec la qualité de vos productions dans le jeu, ce qui va vous arriver.
Le Real Madrid, ils connaissent pas le doigt rond.
Non, mais après, pour revenir un petit peu sur tout ça, c'est vrai que quand on regarde la qualité intrinsèque de l'effectif, et sans faire injure à mes joueurs, il y a bien évidemment des effectifs qui sont beaucoup plus armés que le nôtre pour pouvoir rivaliser et faire une saison pour être, on va dire, dans l'eau du classement. Mais ce que je pense qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est cet état d'esprit, c'est ce collectif et c'est ce qu'on a eu aussi comme chance, c'est que nos meilleurs joueurs sont bons au même moment et en même temps, ce qui fait qu'on arrive forcément à avoir très peu de failles. Et on a aussi une chance, c'est qu'on a été longuement épargné par les blessures, ce qui nous a permis d'avoir aussi des joueurs clés tout au long de cette saison pour pouvoir être dans cette continuité de résultats. Mais après, bien évidemment que aujourd'hui, alors c'est pas encore acté parce qu'il y a encore trois matchs. En trois matchs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais comme je le disais, si demain on a la chance de pouvoir accéder à cette Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, ça sera encore une autre saison l'année prochaine.
Mais Grégory, si vous finissez cinquième maintenant, vous allez être triste, franchement.
Ben, c'est sûr que ça serait regrettable, même si aujourd'hui on va pas banaliser notre qualification en Europa League, parce que pour le stade c'est historique, parce qu'aujourd'hui personne n'aurait misé une pièce sur le stade Brestois.
Pour rappeler un truc quand même, c'est que il y avait 20 ans, hein, qu'il n'y avait pas eu un nouveau club français en Coupe d'Europe depuis Châteauroux, qui est encore une autre histoire. Il y avait 20 ans, donc il n'y avait pas un club nouveau français
qui l'avait jamais joué.
Qui l'avait jamais joué. Tu veux dire. Exactement. Ouais. Donc c'est un phénomène extraordinairement rare qui arrive à Brest. Quoi.
Généralement, les clubs comme les nôtres, c'est soit par le biais d'une Coupe de France, ouais. Ou soit parce que vous terminez 16e ou 7e et qui fait que il y a une place qui s'est libérée supplémentaire qui permet à ce petit club de pouvoir évoluer dans cette compétition. Mais sinon, c'est très rare qu'un club sur une saison entière arrive à ce niveau. Et quand je vous le dis. C'est pas tiré par les cheveux, je trouve que c'est mérité et que Brest mérite sa place pour être dans le top 6 cette saison, tout simplement.
Jean Baumel, troisième but d'Auxerre.
Ah, quel but et superbe reprise de la part de Ryan Ravelosson à la 70e, et ça fait 3 buts à 1 désormais pour la JOCR qui marque de la distance par rapport à Angers, plus 6 par rapport au 3ème, donc ça sent plutôt bien pour la montée en Ligue 1, même s'il reste 3 journées derrière. Mais là, gros coup d'accélération, 3 buts en l'espace de 13 minutes pour les joueurs de Christophe Pelissier.
Grégory Lorenzi avec nous encore quelques minutes. Grégory, on fait une petite pause d'une minute, 1 minute 30, et on est de retour.
J'ai une question essentielle
avec des questions notamment concernant l'avenir.
C'est là que ça va devenir important, la discussion.
À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h17, avant de parler du PSG, avant de parler des résultats du week-end en Ligue 1 avec Stéphane Guy et Daniel Riolo, on reçoit Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, qui, on l'espère pour les Brestois, jouera peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine, mais enfin pour l'instant, ils sont sur le podium avec en plus un calendrier plutôt favorable. Hein, on en a parlé hier soir. Tu voulais poser une question sur Eric Roy, Stéphane.
Des 10 dernières années, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous avait séduit chez cet homme-là? Est-ce que c'est le fait qu'il était sans staff, donc tout à fait adaptable à votre modèle à vous? Expliquez-nous ça, Grégory, s'il vous plaît.
Non, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai eu la primeur de choisir Eric, beaucoup de gens s'attendaient pas, et ce que je peux comprendre, parce que c'était un entraîneur qui n'avait plus entraîné depuis plus de 10 ans, et que beaucoup de personnes avaient oublié. Au-delà de ça, c'est vrai que quand est arrivée cette réflexion, j'ai voulu aussi prendre mon temps, parce que il était important pour moi de bien réfléchir, parce que je pensais que c'était une décision qui pouvait, on va dire, nuire sur l'avenir ou pas du club. Et pour moi, ce choix a été surtout sur un choix, on va dire, émotionnel, dans le sens où je connaissais très bien mon vestiaire, je connaissais très bien mes joueurs, et je savais de ce qu'ils avaient besoin et non pas l'inverse. Et c'est vrai que pour avoir échangé plusieurs fois avec Eric, et je vais pas non plus faire l'hypocrite, j'avais aussi échangé avec d'autres entraîneurs, pas non plus énormément. Et c'est celui qui me semblait le plus, on va dire, en adéquation avec ce que pouvait avoir besoin mon vestiaire en termes de management, en termes de d'aura, en termes de discussion. Et c'est vrai qu'avec Eric, j'ai senti un discours qui me correspondait par rapport à ça. Et pour moi, je me suis dit, c'est peut-être la personne que j'ai besoin pour, en tout cas, mettre les têtes à l'endroit de mon équipe et repartir du bon pied. Et force a été de constater qu'Eric, c'est vrai que la particularité aussi qu'il soit seul était une condition importante. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était aussi intelligent dans cette discussion et qui a compris que il fallait bien évidemment qu'il puisse s'appuyer sur des gens qui étaient bien évidemment en place. Et avec toute cette humilité et bien évidemment cette compréhension qui a permis de se fondre rapidement dans le moule, hein, et aussi capable de faire passer son discours au fur et à mesure pour que les joueurs puissent adhérer, et au-delà de ça, montrer qu'ils étaient capables d'avoir des résultats. Donc c'est vrai que les gens se posent des questions, et je vais pas dire que même moi de temps en temps, mais ça a été un choix qui ça a surpris, et je l'entends.
C'est forcé parce que ça marche au-delà de vos espérances quand même, non? Qu'est-ce qu'il fait mieux que ce que vous imaginiez qu'il ferait?
Au-delà de la venue d'Eric, c'est en général, on pensait pas que ça pourrait marcher aussi bien. Parce que après, encore une fois, c'est tout l'ensemble d'un club, c'est une synergie qui fait que tout le monde va dans la même direction et fait en sorte à ce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que Eric a su, par sa qualité de manager, poser un discours qui correspond à ce que souhaitait le vestiaire, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une adhésion totale entre le vestiaire et le staff, entre l'ensemble des gens qui travaillent au club et le secteur sportif. Donc c'est ce qui fait aussi, je pense, notre plus belle réussite. Après, bien évidemment, on souhaite que ça puisse continuer le plus longtemps possible, mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans le football, ça, on peut pas le maîtriser, et on verra jusqu'où ça ira, tout simplement.
Ouais, il y avait une dimension Paris aussi, parce que comme ça faisait 10 ans qu'il n'entraînait pas, il n'y avait pas réellement de référence sur lesquelles travailler pour vous dans son recrutement. Je crois pas que, j'en suis même sûr, il n'était pas le choix numéro 1. Et je pense que c'est une discussion presque un petit peu, comme on dit entre guillemets, à bâton rompu entre vous, qui a emporté l'adhésion. Il a rencontré le président. Bon, enfin bon, voilà, l'histoire a remarquablement bien tourné. Tant mieux. Alors, vous avez commencé à introduire le futur, puisque vous l'avez dit, dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. S'il y a Ligue des Champions, s'il y a Europe, Europe il y aura. Eric risque d'être sollicité après la saison qu'il vient de faire, c'est certain. Quand on décroche un petit peu comme Xabi Alonso qui va être champion, qui va continuer avec Leverkusen alors que l'Europe entière le veut, il a dit je vais rester parce qu'il veut aller au bout de cette aventure. Est-ce qu'Eric va faire la même chose? Et après, la deuxième question, c'est le casse-tête qui va se poser à vous. Parce que quand on joue ce genre de compétition, bah d'abord il va falloir prolonger des joueurs, augmenter des joueurs, le budget ne va pas être extensible, il va falloir recruter, les deux matchs par semaine ça crame, on le sait chaque année, beaucoup d'équipes, si en plus il y a le play-off à jouer au mois d'août, moi je sais pas, dans une main vous allez tenir la coupe de champagne dans quelques semaines, mais dans l'autre, vous allez peut-être venir tenir votre
troisième,
tête.
Daniel, il n'y aura pas de
vous
play-off.
Vous allez peut-être tenir la boîte de Doliprane parce qu'il va y avoir beaucoup, le mal de tête, il va être terrible. Hein. Il y a beaucoup de choses à régler, mine de rien.
Alors déjà, pour répondre à votre première question, l'inverse serait illogique. Bien évidemment, quand on a des résultats comme à notre coach, il serait tout à fait logique qu'il soit sollicité, et ça, au même titre qu'un joueur. On est obligé de pouvoir être confronté à ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, on doit l'affronter et on doit effectivement aussi l'assumer et le gérer. Donc, pour moi, ça, c'est pas aussi un sujet parce qu'Eric est encore sous contrat avec nous. Et on aura, je pense, le temps de l'évoquer et de discuter pour voir ce qu'il y a le mieux pour le projet du club. Déjà, ça, c'est important de pouvoir le dire. Et secondo, bien évidemment, qu'on sait très bien que quand on est Brest, quand on n'aura pas un budget énorme, jouer une Coupe d'Europe et jouer bien évidemment notre quotidien, le championnat, ce qui sera le plus important, c'est de se dire comment on va réussir à réussir à cet objectif qui sera bien évidemment aussi pour nous le maintien prioritaire. Alors au niveau des joueurs, il y aura forcément des joueurs qui seront sollicités, forcément des joueurs qui voudront aussi partir parce que ils estimeront que aller dans un club plus costaud, ça serait peut-être logique pour eux pour l'évolution de leur carrière. Mais encore une fois, c'est pas parce que des joueurs seront sollicités que nous on doit aussi se démunir, parce qu'il est important que quand on a un projet sportif, on a envie aussi de le stabiliser. Donc là-dessus, ça sera pas non plus simple pour tout le monde. Mais concernant aussi le projet sportif, comme je le dis, économiquement, on va pas faire n'importe quoi. Parce que moi, c'est pas non plus l'intérêt d'ouvrir les vannes, de dépenser le peu d'argent qu'on aura gagné par rapport à une qualification en Coupe d'Europe, de donner des salaires mirabolants. Ça sera plutôt de continuer à appuyer sur le projet qu'on met en place maintenant depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que si aussi vous faites venir des joueurs qui n'ont pas participé à cette aventure et qui vont venir chez vous uniquement parce qu'ils viendront jouer la Coupe d'Europe, mais quand vous allez jouer le week-end sur des matchs au couteau, il va falloir mettre le bleu de chauffe, peut-être que ces joueurs, vous les verrez moins. Ah, et peut-être que si vous ne faites pas la Coupe d'Europe l'année d'après, ces joueurs voudront partir.
Comment on fait pour choisir ça ?
Justement, pour moi, c'est de rester dans... Pour moi, c'est de rester dans le même modèle de recrutement, c'est-à-dire prendre des joueurs qui ont aussi un état d'esprit qui correspond à ce qu'on fait depuis le début de saison, depuis ces dernières années, pardon, prendre des joueurs qui sont aussi revanchards, prendre aussi des jeunes qui auront besoin de se développer, que peut-être en venant chez nous, ils auront plus de possibilités de s'exposer pour que derrière ils puissent avoir un step différent. Donc ça, c'est les choses qu'on met en place maintenant depuis des années. Et pour moi, il faudra pas déroger à ce genre de choses, mais il n'empêchera pas que de temps en temps, il y aura peut-être besoin d'avoir des joueurs qui apporteront un plus, et ces joueurs qui apporteront un plus, ça sera à nous de pas se tromper là-dessus. Quand je parle de ces joueurs qui apporteront un plus, ça veut pas dire qu'il faudra prendre 30 joueurs dans l'effectif, parce que ça sera aussi ingérable. Par contre, augmenter le nombre qualitativement des joueurs qui pourront faire la Coupe d'Europe et le championnat, ça, ce qui est le plus important, et non pas le nombre pour dire avoir des joueurs pour avoir des joueurs, parce que sinon ça va être ingérable. Et dans votre cohérence et dans votre équilibre de construction d'effectifs, ça pourra faire foutre un bordel. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul, il faudra analyser tout ça et bien réfléchir pour bien évidemment faire les meilleurs choix possibles. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce sont des choses auxquelles on,
on y réfléchit déjà et on pense déjà à savoir dans quelle direction on va aller, tout simplement.
Justement, concernant le mercato, alors il y a certains joueurs qui pourraient partir. On lit partout que Brassier pourrait s'en aller. Il y en a d'autres qui sont en fin de contrat. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous souhaitez absolument retenir? Je sais pas, je pense à Mounier, par exemple. Est-ce que vous avez déjà commencé à bosser là-dessus? Et est-ce que vous confirmez pour Brassier qu'il devrait a priori s'en aller?
Alors, aujourd'hui, actuellement, le seul qui est sous contrat et qui a un bon de sortie, c'est Lyon Brassier, parce que voilà, ça fera 4 ans qu'il a évolué chez nous, et autant lui que nous, on estime que il a peut-être besoin d'un projet différent pour continuer sa progression. Maintenant, concernant le reste, bien évidemment, nous on souhaite garder nos meilleurs joueurs, c'est ce qui est logique. Après, on sait que ces meilleurs joueurs-là seront aussi sollicités, mais après, encore une fois, on a le droit de d'avoir nos arguments et de pas non plus se laisser démunir. Et concernant Steve, ça fait maintenant 4 ans qu'il est chez nous. C'est un joueur important, c'est un leader de groupe. On lui a aussi, bien évidemment, fait part de le conserver. Steve a une proposition entre les mains. Aujourd'hui, bien évidemment, ce qui est normal en étant en fin de contrat, qu'il puisse aussi se laisser la possibilité de réfléchir. Mais je pense que voilà, je souhaite que Steve continue l'aventure avec nous. Mais en tout cas, on travaille à ce que dès à présent, à ce que on puisse dessiner notre effectif pour que la saison prochaine.
Vous avez réussi à garder cet hiver. C'était avec la promesse qu'il puisse partir cet été prochain ou pas?
Non, il n'y a jamais eu de promesse de fait entre le club et Pierre Lesmélou. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que il a été difficile et on a compris, bien évidemment, quand il y a un club qui est supposé être supérieur, souhaite avoir un joueur en mettant des moyens importants et que même le joueur, à un moment donné, puisse être aussi perturbé par rapport à ça, ça peut se comprendre. Mais nous, notre volonté était aussi de se donner, on va dire, les éléments et les moyens de pouvoir faire notre meilleure saison possible. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ben, notre décision a été bonne. Oui. Parce que dans le foot, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que l'argent, il est important. Mais à un moment donné, on a le droit aussi d'avoir un projet sportif et de montrer qu'on a le droit de pouvoir rêver. Donc maintenant, l'été, c'est différent. Il faudra bien évidemment voir ce que le joueur souhaitera faire. Mais nous, aujourd'hui, notre volonté, bien évidemment, elle est de vouloir conserver Pierre au même titre que nos autres bons joueurs du club. Et après, entre un discours que je peux vous porter aujourd'hui et la réalité qu'il y aura cet été, ça sera peut-être différent. Mais en tout cas, la volonté, elle est bien là.
Le stade, faisons un point parce que vraisemblablement, le club et la ville de Brest veulent se battre pour pouvoir recevoir la Coupe d'Europe au stade Francis Leblé. Là, un petit point, là, est-ce que les choses évoluent favorablement ou pour l'instant c'est stand-by? Qu'en est-il?
Non, mais c'est vrai que il y a quelques semaines de ça, des membres de la commission de l'UFA est venu nous rendre visite afin de faire un point et un état des lieux sur le stade Francis Deblé. On savait que bien évidemment c'était peut-être des réajustements, des réaménagements à faire si le club évoluerait en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc sans surprise, on a reçu une première notification qui nous disait qu'il était forcément dans cet état, à cet instant-là, pas possible de pouvoir jouer une compétition européenne. Mais bien évidemment, avec l'aide de la municipalité et toutes les composantes du club, on y travaille pour qu'on puisse, je le souhaite et je l'espère, faire nos premiers matchs en Coupe d'Europe à Francis Leblé. En tout cas, on va tout mettre en place et en œuvre à ce que ça puisse se réaliser et j'espère que ça sera le cas. Mais bien évidemment, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer, mais sachez qu'on y travaille d'arrache-pied.
C'est possible en tout cas, les rectifs, les modifs qu'ils demandent,
5 000 ou pas.
Les modifs, il y a moyen de les faire, où on peut s'adapter. C'est pas genre le constat, bon, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a pas les structures, parce qu'on peut pas. Il y a la possibilité de répondre à leurs attentes.
Dans la vie, tout est possible. Maintenant, entre la possibilité et réussir, c'est encore un autre problème parce qu'on n'est pas seul décideur. Il faut aussi savoir qu'on est confronté à une commission qui est tout à fait différente que ce que peut faire aujourd'hui dans le championnat français. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de se donner les moyens pour pouvoir jouer à Francis Leblé. Ce qui est sûr,
Envoyez visiter les infrastructures de Paris 2024, Place de la Concorde en ce moment, par exemple, pour qu'ils voient qu'il peut y avoir des praticables qui accueillent des grands événements sportifs internationaux.
Ce que je peux vous certifier, que jouer devant 5 000 personnes, ça ne sera pas possible pour nous. On ne l'acceptera pas. Voilà.
Bah oui, ça voudrait dire une seule tribune.
Oui, bien sûr. Après le reste, ça sonne vide. C'est pas le même truc.
Non, par rapport à la communauté de supporters, ce serait.
Ouais, juste, on a pas tant parlé de transfert que ça. Je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais vu que j'adore ce joueur, je voulais en parler. Le petit Doumbia, il vous appartient pas, si je me trompe pas.
Non.
Et il y a matière à faire en sorte qu'il reste.
Écoutez, il y a déjà eu des discussions qui avaient été entamées dès cet hiver avec nos amis et moi. Voilà. Il y avait une volonté commune. On avait décidé, bien évidemment, de se laisser un petit peu de temps pour pouvoir continuer à échanger et essayer de trouver une solution. C'est toujours une volonté de notre part. Je pense que c'est aussi également celle des Rémois. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous certifier qu'il sera à Brestois l'année prochaine, mais on y travaillera pour que ça soit le cas.
Grégory Lorenzi, merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fin de saison, évidemment, sur le podium. Hein.
Deux victoires en trois matchs, c'est ça l'objectif, le projet, Grégory?
Écoutez, c'est déjà gagner le prochain match. Ça, pour nous, ça sera important. Et puis après, on avisera. Mais voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, pour répondre un petit peu à ce que vous avez dit, oui, un calendrier, comme je dis, dans les derniers instants, tous les matchs sont compliqués. On le voit très bien. Et il va falloir la jouer jusqu'au bout parce que rien ne sera facile.
Merci beaucoup. À très bientôt dans l'after.
Merci à vous, au plaisir, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Point Ligue 2, mon petit Jibo, Dunkerque, Auxerre.
3-1 pour la GIA. Il reste 30 secondes sans le temps additionnel et je peux vous dire qu'ils sont bien partis forcément les Auxerrois puisque ils ont quand même 6 points d'avance sur le 3ème avec un goal à virage de +31 et +12 pour Angers. Donc 6 en reste là, une victoire sur les 3 derniers matchs et ça va le faire. Oui, carrément, on attend le temps additionnel, on va pas s'enflammer hein. Des retournements de situation on a déjà eu, mais en tout cas franchement sur ce qu'ils ont montré ce soir, franchement qu'est-ce que ça joue bien du côté de la GIA, c'est beau à voir. 3-1 et 5 minutes de temps additionnel.
Et pendant ce temps-là, 2-2 entre le Barça et Valence, égalisation de Barcelone il y a quelques instants.
Lewandowski
et le PSG au programme dans quelques secondes. Daniel va en parler. 12e titre de Paris. Comment classer ce titre dans la litanie de trophées du Paris Saint-Germain? On entendra également Christophe Dugarry qui donne son avis. Le débat est lancé dans quelques instants. Supporters parisiens, on vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h36, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là. 2-2 entre le Barça et Valence, toujours 3-1 pour Auxerre à Dunkerque. Jibo nous appelle dès que c'est fini. Le PSG est champion pour la 12e fois. On n'en a pas parlé hier soir après le match de Marseille parce que on voulait rester sur les matchs du jour. Le PSG c'était avant-hier, même si on a su dire qu'ils étaient champions évidemment. Mais faisons-le ce soir parce que c'est toujours intéressant de mettre en perspective le titre 2024 avec les autres. Déjà c'est le 12e, donc c'est le record évidemment en France. Hein. Saint-Etienne en a 10, Marseille en a 9. Enfin, selon les versions.
Le 10e pour le Qatar, pour le PSG Qatar. Ouais.
Selon le club à Marseille, il y en a 10.
Il y en a
9. Celui de 93.
Mais il y a un truc qui s'appelle la loi. Hein. Ouais. On fait pas.
D'ailleurs, certains Parisiens disent ouais, mais celui de 93, du coup, il est pour nous vu qu'on était.
Absolument.
Mais c'est ce qui aurait dû se passer. Absolument. Mais si Canal à l'époque n'avait pas renoncé à ça.
S'il n'y avait pas eu une énorme magouille politique, économique, évidemment que c'est comme ça. Quand le premier est disqualifié, c'est le deuxième qui.
On rappelle aux jeunes qui nous écoutent, qui savent peut-être pas cette histoire qui appartient effectivement à l'histoire de la Ligue 1. C'est que donc Marseille a été déchu de son titre. Le deuxième n'a pas été sacré.
À cause de l'affaire MVA,
je rappelle. Le deuxième n'a pas été sacré, qui était le Paris Saint-Germain. Et en plus, le Paris Saint-Germain a refusé de disputer la Ligue des Champions. Donc c'est Monaco qui a joué la Ligue des Champions 93.
Pour des raisons
94.
Politiques et économiques.
Et ils sont allés, je crois, Monaco, si je ne me trompe pas, en demi-finale de cette compétition.
Et Paris n'est pas le seul à avoir refusé à ce moment-là, puisque tous les autres, lors d'une réunion. Tiens, un soir, si vous voulez, je vous raconte cette histoire, parce que le livre écrit avec Jeff Perez date de 2003 maintenant. On avait révélé tout ce qui s'était passé dans toutes les réunions, où, évidemment, les autres clubs derrière le PSG avaient également refusé la place en Ligue des Champions.
Par Monaco.
C'était tombé sur Monaco parce qu'on leur avait dit, écoutez, vous êtes le club neutre, vous êtes le club neutre, vous êtes les Suisses de l'histoire, tout le monde s'en fout, donc vous allez y aller.
Ils avaient fini combien les championnats Monaco?
Ils doivent, je sais pas, ils sont derrière. Non, je sais pas si troisième. Attends, il y a Auxerre, il y a Nantes dans l'histoire. Regarde, mais en fait, je sais plus exactement. Bon, mais dans la réunion, tout le monde s'est planqué. Elle dit, il est hors de question qu'on remplace l'OM parce que ça, il y a trop d'impact émotionnel. À l'époque, l'OM est tellement médiatique que tout le monde renonce. Le PSG, c'est un mélange entre le refus, c'est un mélange entre Jacques Chirac et Canal+. Canal+, qui avait peur pour ses abonnés du sud de la France, et Chirac pour des intérêts présidentiels.
Monaco est troisième, c'est le
troisième. Même nombre de points que PSG.
Ouais.
C'est logique.
Il y avait qui finalement. Après il y avait
ensuite,
Bordeaux.
Derrière, il y avait Bordeaux, non,
Bordeaux refuse complètement. Giroud se dit que pourquoi pas.
Strasbourg était 8e, on ne nous a pas demandé.
Non, on n'a pas demandé. Non, on a pas demandé. Mais c'est assez passionnant ce qui s'était passé à ce moment-là et comment la Ligue a décidé finalement de dire à Monaco, hop, on y va et puis c'est tout. Et surtout la force avec laquelle le PSG ne voulait surtout pas entendre parler de ça. Et Chirac, Canal qui disent c'est hors de question, on n'y va pas.
Allez,
je pourrais raconter cette histoire un soir.
C'est fini à Auxerre, Djibo.
Ah. À Dunkerque, c'est fini. 3-1 pour les Auxerrois. Avec, on rappelle rapidement, Yacine, l'ouverture du score pour Dunkerque, 20e. Égalisation de Sinayoko, Courté contre son camp, 62e. Ravelosson, 70e, qui scelle cette rencontre à 3-1. Grosse performance des joueurs de la JOCR qui sont tout proches d'aller, de retourner en Ligue 1 après une saison, pour l'instant. Bon travail, forcément, de Christophe Pélissier. Bonne soirée, les amis.
Faut que tu rappelles Gérald Matic, là. Il a pas trop aimé ton manque de respect tout à l'heure.
Oui.
Ah, écoute. Écoute, c'est vrai.
Jingle, Daniel.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça. Et puis nous, si on avait fait ça. Eh bien, hein, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, eh ben, il aurait glissé son pied dessus.
Donc, tu voulais...
C'est une imitation à une époque.
Tu voulais donc...
On sentait l'acteur. L'acteur était là, déjà.
Prendre un peu de recul sur ce titre-là pour l'analyser. Le 12e.
Pas tant de recul que ça, parce que au final, écoute, ce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain ont appelé de leur vœu ces derniers temps est finalement arrivé, à savoir qu'un titre, quand on a vu les deux derniers, qu'un titre fasse à ce point plaisir. C'est le titre pour moi de la simplicité retrouvée, d'un club retrouvé, d'une osmose et d'un lien à nouveau fort entre supporters et équipe. Je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'on a oublié ce qui s'est passé ces derniers temps. Le titre pas fêté, une victoire contre l'OM pas fêtée, la banalité effectivement qui entourait les titres de champion du PSG, ces fins de saison où dès le mois de mars tout était fini, le ticket place ou marketplace ou je sais plus comment ça s'appelait là, où des supporters du PSG ne venaient même plus au stade et faisaient tout pour revendre leur billet tellement ils avaient même plus envie de voir le spectacle qui était proposé. Moi en tout cas j'ai pas oublié. C'était pourtant des choses très simples, hein, qu'on voulait, que les supporters du PSG voulaient, que même le monde du foot en général, parce que j'ai remarqué que quasiment tout le monde a félicité le PSG, mais à féliciter la fraîcheur qui entourait l'équipe et la façon dont ce titre a été acquis. C'est pas arrivé tous les ans. Parce que la politique de star dérangeait tout le monde, parce que l'attitude des joueurs, l'arrogance de certains, ce que l'équipe dégageait, c'était négatif. Et si même plein de supporters du PSG ne l'aimaient pas, c'est dire si les autres l'aimaient encore moins. Là, j'ai senti beaucoup moins de cette espèce de rejet qui pouvait virer à la haine parfois chez les autres autour de ce club. Je l'ai ressenti moins fort tout au long de la saison parce que tout simplement cette équipe, ce club ont ressemblé à un club de foot et à une équipe de foot. Voilà. Avec un président, bon, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'on le voyait beaucoup, on l'a peu vu et, eh bien, il est peut-être arrivé, il est arrivé au bout du process. Initié en 2017. Parce que, évidemment, qu'il y avait eu déjà l'idée dès 2013, dès 2012 de prendre des stars, des joueurs connus. Mais avant 2017, ça ressemblait quand même à une équipe. Malgré tout, il y a eu des déceptions d'Europe, mais rien à voir avec le virage pris en 2017 suite à, parce que tout finalement était né suite à la remontada et à ce choc psychologique qu'il avait fallu encaisser et qui avait conduit à dire on va mettre l'oseille parce qu'en finalement c'est une sorte de combat personnel de ne s'être jamais remis de ce truc-là. En gros, on va flinguer le Barça, on va leur prendre Neymar et puis quelques années après, on a enfoncé le clou définitivement, on va même aller leur chercher Messi parce que finalement ils se sont ruinés suite à 2017. Il y a eu cette espèce de combat, cette constitution d'équipe qui ne ressemblait à rien. Vous rendez compte des joueurs qui sont arrivés dans ce club à un moment, on prenait un gardien Buffon parce qu'il fallait câliner Verratti, on prenait Sergio Ramos pour son expérience. On a pris Dani Alves pour surveiller Neymar. On prenait une star et on prenait la nounou à côté. Mais on a atteint un délire incroyable dans ce club-là. Et finalement, bah peut-être, alors oui, mieux vaut tard que jamais, mais que d'années perdues pour enfin arriver à Nasser Al-Khelaifi qui a dit, bon allez, on va essayer, je ne sais même pas si c'est lui qui se l'est dit, mais bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. On va rentrer dans quelque chose de plus simple. Déjà, moi je trouve que on dit pas assez quand même, mais le travail de Luis Campos a pas été mal, mine de rien. Il y a certains joueurs, pour moi le joueur de l'année aujourd'hui, c'est Vitinha. Je sais pas, j'ai lu dans la presse ce matin que c'est un coup d'Antero Henrique. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Non, c'est Luis Campos, j'ai les documents, j'ai la preuve que c'est Luis Campos qui avait dessiné cette équipe et qui a pris Vitinha. Au départ d'ailleurs, il est dans la même case quand ils ont dessiné l'équipe que Verratti, comme si ça devait être sa doublure. Donc évidemment que c'est un coup de Luis Campos, c'est un très bon coup d'ailleurs. Faire partir les stars, c'était d'abord en plus une idée de l'année d'avant. Finalement, ils n'ont pas pu faire partir Neymar à ce moment-là. Ils ont dû continuer une année de plus, qui a été une année absolument terrible. Ça a été la pire l'année dernière, entrecoupée par la Coupe du Monde. Là, ça a été abominable. Le choix d'un entraîneur à qui on a donné tous les pouvoirs. Voilà, enfin, il s'en est parfaitement bien tiré. Je rappelle quand même, et il faut pas le nier, on lui a enlevé toutes les pommes pourries du panier. C'est toujours plus facile de travailler quand on enlève toutes les pommes pourries du panier, parce que oui, moi je maintiendrai toujours qu'Emery et Tourelle ont été d'excellents coachs, mais qui n'ont pas été soutenus, qui n'ont pas pu travailler comme il faut, d'ailleurs eux-mêmes l'ont dit. Luis Enrique a fait du bon travail. La saison, moi je la trouve parfaite, parce que vraiment, quand un public aime autant son équipe et quand une équipe rend autant à son public, c'est-à-dire on peut pas demander plus que ça. Maintenant, il y a le bonus. Il y a cette phrase d'Emery dans l'interview qui est ressortie là sur les réseaux, je l'ai réécoutée. Oui, c'est vrai, un jour, ça va tourner. Et c'est en train de tourner parce que tout le monde travaille bien. C'est en train de tourner et oui, tout le monde y croit. Depuis le tirage, je trouvais que parfois c'était un peu prétentieux de le présenter comme ça. C'est le fameux tableau, parce que dans le passé, cette prétention, elle a joué des tours au club. Bah oui, évidemment que c'est un bon tirage Dortmund. Voyons voir maintenant s'ils vont profiter de ce bon tirage. Oui, à cette histoire de planète alignée, moi je suis pas tellement dans l'irrationnel, je crois pas trop à ces choses-là, je crois plutôt au travail bien fait. L'équipe elle est en forme, Dortmund c'est prenable, c'est une équipe on sait jamais réellement de quoi elle est capable, mais j'ai envie de croire que le PSG est au-dessus. Tout a été super bien fait jusque-là, maintenant c'est le bonus. Le bonus c'est d'aller au bout de cette histoire. Écoute, je crois que tout le monde y croit maintenant.
Dans un instant, l'avis de Stéphane. Est-ce que Stéphane est d'accord avec Daniel? Le suspense est total, vous allez le savoir dans quelques secondes.
T'attends.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy également. Le PSG, son 12e titre, Daniel donc a donné son avis, il a été extrêmement positif.
D'ailleurs, je le compléterai parce que j'ai oublié des choses essentielles à dire.
C'était déjà très long.
C'est pas grave, Stéphane va parler et puis je pourrai ajouter des choses.
Pas une minute.
Vas-y.
Non, à toi. Stéphane, est-ce que tu es d'accord? Parce que tu as entendu dans la bouche.
Je pense qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas valider la première partie du propos de Daniel. Et c'est vrai que ce qui était problématique avec le Paris Saint-Germain l'an passé, en tout cas, je parle de ceux qui aiment ce club et qui se passionnent pour ce club, ce qui est loin d'être l'intégralité de la France du football. Mais les passionnés étaient effectivement en rupture avec leur propre club. C'est ça qui posait le problème.
On a oublié tout ça.
Et là, de ce point de vue-là, c'est une énorme réussite la saison qui s'écoule.
Et on a oublié tous ceux qui pleuraient le départ des stars. Qu'est-ce qu'on va faire sans Neymar? Mais si, on n'aurait jamais dû.
Ça,
Verratti,
je pense qu'on avait
horrible.
Été quelques-uns, toi et moi, Daniel notamment, à expliquer quand même qu'il y avait un avenir au-delà de Neymar et de Messi. Je suis moins certain qu'il y aura un avenir au-delà d'Mbappé, mais c'est un autre sujet. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un beau titre. Après, sur la performance sportive objective du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une équipe qui, moi, sportivement, cette année, m'a impressionné? Est-ce que je me suis régalé à les voir jouer en Ligue 1? Est-ce que c'est un grand champion de France qui va m'avoir marqué l'esprit comme Monaco m'avait marqué l'esprit, comme le PSG de Tourelle, par exemple, m'avait marqué l'esprit? Moi, je dirais pas ça. C'est, par exemple, les chiffres sont là. 20 victoires, 10 matchs nuls, une défaite. Bon, bah, pour un Paris Saint-Germain, toujours pareil, hein, faut rapporter la performance sportive au budget. Quand vous avez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand vous avez 5 fois le budget de votre premier concurrent, c'est toujours plus facile. Quand vous dépensez l'été dernier pour une simple saison de transition, vous avez la capacité à sortir 400 millions d'euros et que vous avez des joueurs à 90 millions d'euros sur le banc, etc. Ça relativise plein de choses. Mais par contre, sur l'esprit qui a accompagné la saison parisienne, sur sur ce qui s'est passé en interne au club, sur le fait que le président semble désormais présider, l'entraîneur entraîne, le directeur sportif, on le voit plus sur le bord de la touche à attendre les arbitres à la fin des matchs, etc. Il y a eu une remise à niveau qui effectivement est très salutaire et qui explique sans doute aussi le bon parcours en coupe, même si évidemment les parcours de coupe sont beaucoup beaucoup liés au tirage au sort, hein, que vous preniez le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions ou la Real Sociedad, c'est pas le même sport.
Oui, mais tout ça, honnêtement, tu fais bien de le dire, mais cette histoire de tirage que t'as pris machin à ce moment-là, c'est comme les chiffres. En fait, je vais te dire pourquoi je m'en fous. Parce que les autres années, l'oseille, tu le dépensais.
Ouais, bien sûr, monsieur.
L'oseille,
oui,
il a toujours
été. Ça n'a jamais été un problème, ça, c'est
sûr. Et en fait, qui est l'oseille ou pas l'oseille ou comme dirait, de toute façon, ce que dégageait l'équipe, le lien avec les gens. Cette équipe faisait honte à beaucoup de supporters du PSG. Non,
parce que, d'ailleurs, donc, parce que toi, tu restes fixé sur les 2-3 dernières années, mais il y a eu des équipes du Paris Saint-Germain depuis impressionnantes par le jeu. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs du PSG de Laurent Blanc. C'est une équipe qui, chaque samedi, c'était un récital.
Oui, la première.
Certaines périodes d'Emery, c'était un récital. D'ailleurs,
oui, je suis d'accord avec ça.
J'ai des stats sous les yeux assez intéressantes sur le nombre de victoires.
Oui, mais
par entraîneur. Un entraîneur comme Tourelle, moi ça va, moi j'en reviens pas. Hein. Tourelle en 2020, donc l'année où le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions.
Mais c'est une année tronquée.
Ouais, bon, mais okay, il gagne 80% de ses matchs, oui, toutes compétitions confondues.
Oui. Mais non, mais le but n'est pas de dire. Hein, c'est, à la limite,
Laurent Blanc, il y a des années à 75% toutes compétitions confondues.
Il y a eu des belles périodes. Ouais. Sauf que comme il y avait une rupture, comme le club a connu une sorte de d'avancée vers le ras-le-bol général, de dégoût. Tu te rends compte, c'était un dégoût pour les propres supporters. Donc, le lien qui a été recréé cette année avec, c'est comme vrai, tu l'as dit, président, et moi, j'enlève rien à personne. Mais on est obligé de dire non, que tout
les joueurs symboles de la saison parisienne, que tu prennes Vitinha, que tu prennes Zaïre Emery, qui est évidemment
un puissant l'impression que des mecs étaient là pour le club, voilà, tout donné toute l'année. Et ça,
même Dembélé, voilà, c'est des garçons, ça, que t'as envie pas d'aimer.
Tout le monde, voilà, t'as envie
Mbappé
d'aimer.
Mbappé a marqué un nombre incroyable de buts.
Et alors, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que on avait toujours des affaires. Rappelons quand même l'époque, justement, dans la fin de cycle d'une belle époque qui est celle de Blanc, t'as l'affaire Aurier qui a quand même pourri le quart de finale contre Manchester City, tu as eu des affaires sans arrêt quand t'avais les stars, c'était à chaque fois ingérable tout ce qui se passait dans le vestiaire. Cette année, il y a eu une affaire en deux temps, c'est-à-dire l'affaire Mbappé. Il y a eu l'été avec Loft, sortie de Loft. Bon, d'abord on a écarté qui il fallait écarter, ça a été bien fait. Puis l'affaire Mbappé, se rendre compte qu'il allait rester. Loft, sorti de Loft. Ça aurait pu faire une crise. Ça a été plutôt bien géré. Ce qui s'est passé suite à son annonce, sorte de bordel, énormément de polémiques, au final, plutôt pas mal géré. Et moi, j'aimerais quand même dire à tous ceux qui l'ont taillé pendant des semaines et des semaines, ben pardon. Mbappé, tout milliardaire, égocentrique, et moi je suis le premier à dire qu'on peut ne pas aimer sa personnalité, puisque moi je me donne le droit de ne pas aimer la personnalité de Luis Enrique. Toujours est-il que ces deux personnalités-là, l'une et l'autre, ont œuvré pour le bien du club. Que Mbappé, qui adresse plus la parole à Nasser El-Khelaifi, il y a une rupture et tout, ce gars-là, il y a d'autres joueurs, d'autres contextes, ça aurait pu être le bordel. Parce que Mbappé, il a des amis dans le vestiaire. On dit toujours, c'est pas un joueur qui peut foutre la merde et tout. Non, c'est comment tu tisses tes liens dans le vestiaire. Si tu fais la gueule, ça veut dire que ton pote peut faire la gueule aussi. Il a quand même des amis dans le vestiaire. Il est pas isolé, le gars. Eh bien, non. Ça n'est pas arrivé. On peut quand même lui dire aussi, on peut lui reconnaître que le gars, il a continué à enquiller les buts. Il a continué à marquer et il est en rupture. Mais on peut être persuadé d'un truc. C'est que jusqu'au bout, jusqu'à la finale, s'il y a finale, il a eu un passage à vide d'un mois. Néanmoins, il sera là, à fond, et il va jouer à fond.
Je rebondis sur ce cas-là.
Et cette affaire-là, qui aurait pu être un enfer à gérer, eh ben, ça a été bien géré par tout le monde, et même par le joueur.
Il y a quand même une incompréhension, moi, sur le cas Mbappé. Bon, il y a un truc que je... Donc, il en est, j'ai les stats sous les yeux. Hein. Il a marqué 43 buts cette année. Dans toute sa carrière, il n'a jamais fait mieux. C'est un record, et la saison n'est pas finie.
Et pourtant,
t'as, on va dire, allez... une bonne moitié des supporters de PSG qui ne veulent plus entendre parler de ce mec, qui est le meilleur joueur de football actuellement dans le monde.
Ils se rendent pas compte que ça aurait pu être un énorme bordel et que ça ne l'a pas été.
Et j'ai beau entendre les arguments des uns et les autres, je comprends pas.
Un autre élément dans ce sens-là, Gilbert, c'est que quand on prendra un peu de recul, parce que là tout est. Oui, mais les supporters, les cœurs sont vifs, ils sont.
On est dans une fin de saison tellement passionnée avec l'espoir de la Coupe d'Europe.
Ils sont passionnés en permanence. À un moment donné, ils vont prendre un peu de recul, puis ils vont se rendre compte que Mbappé aura passé 7 ans ou 8 ans à Paris, 7 ans. Et que, quand même, sur les 5 dernières années.
C'est sa 6e saison, ça fera 7 ans, quoi.
Ça fera 7 ans. Sur ses 5 dernières années, alors c'est pas que lui évidemment, c'est jamais qu'un seul joueur de toute façon une équipe de foot, mais Paris est quand même 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions.
Dans sa 7e saison, pardon.
Ouais. Ouais. Donc sur les 5 dernières saisons de Ligue des Champions, ils ont quand même, avec Mbappé quand même en fer de lance, en attaquant
volet. Il paraît qu'il a rien fait dans les gros matchs, au Bayern il a rien fait.
Ils font ad minima, et peut-être, peut-être qu'il y aura une deuxième finale, peut-être même qu'ils vont la gagner. Hein. Ils auront aussi passé un cap malgré tout avec Kylian Mbappé, même s'il y a aussi des illusions avec lui en Ligue des Champions.
Ah tiens, écoutez Christophe Dugarry, qui tout à l'heure a donné lui aussi son avis sur ce titre parisien, et ensuite on continuera le débat avec vous les supporters au 32-16.
Je pense que cette saison, ouais, ça sera un virage. Pour l'RQSI, je pense que ça sera un virage. Voilà, parce que je pense que les dirigeants ont enfin compris que tu pouvais gagner des matchs, que tu pouvais être spectaculaire, que tu pouvais attirer ton public, que tu pouvais créer quelque chose, un groupe, un environnement, un univers, un esprit club avec moins de stars. Voilà, déjà. Alors, ils ont certainement trouvé l'entraîneur qui leur convenait à ce sujet. Voilà, ça a parfaitement. On a beaucoup moins vu Nasser dans les médias.
C'est vrai.
Je pense qu'il a laissé travailler son groupe, il a laissé travailler son entraîneur. Voilà, donc moi, je pense qu'il s'est passé des choses tout au long de cette saison. Je pense que ce sera un tournant. Après, tu peux pas empêcher les gens de se dire, voilà, dans une année soi-disant de transition, et qu'il était certainement. Je veux bien dire la même chose. C'est quand même un club qui a recruté pour 400 millions dans une année de transition. Mmh. Donc, gagner la Ligue 1, même s'il faut le valoriser, c'est le minimum.
Voilà pour Duga.
Moi, je suis en total accord avec ce que dit Duga. Je répète que les chiffres, moi, j'ai pas envie de mettre l'oseille parce que l'oseille, il y avait avant et beaucoup de gens n'aimaient pas l'équipe. C'est pas ça qui fait qu'on aime l'équipe ou pas l'équipe. C'est l'attitude, c'est ce que tu dégages. Et il l'a dit aussi, Christophe. Il y a eu. À un moment, les gens ont compris dans ce club que, ok, oui, il y avait des marchés à conquérir, oui, il y a des boutiques à ouvrir à New York, oui, c'est bien quand t'as Messi, Neymar, parce que effectivement, ça fait rentrer beaucoup d'oseille dans le club, mais ton image se dégrade auprès de ta base.
Oui, et n'oublie pas,
la base était n'en pouvait plus de voir cette équipe.
Et n'oublie pas que tu continues, tu as dans les rangs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler. Parce que moi, celui que je considère moi comme le meilleur joueur du monde, actuellement, Camille, 47 buts. C'est pas non plus une page qui a été la vraie page tournée. On va la voir l'année prochaine. Sans Mbappé, là, il y aura plus Mbappé, Neymar, Messi. Je pense pas qu'ils auront. On verra d'ailleurs quelle stratégie ils vont adopter cet été. Est-ce qu'ils vont taper dans une superstar? Comment ils vont s'organiser? Mais la boussole PSG n'a pas radicalement changé de cap.
Stéphane, le problème, c'est que oui, il va partir. Mais pour moi, et je le disais déjà il y a 3 ans, ça ne doit pas être un problème. Ils trouveront soit une star, soit ce sera le collectif.
Et on verra.
L'important, c'est ce que dégage l'équipe
de mettre en place.
Moi, je voulais que Mbappé, s'il est là, qu'il soit respecté et il s'en et s'il part, qu'il parte, c'est pas un souci. Il faudra le remplacer. Le collectif devra répondre. Ce que dégage l'équipe. Encore une fois, je disais, tu perdras en Coupe d'Europe. Ok, si t'avais pris le Real en 8e cette année et que tu t'étais fait éliminer ou City, qu'est-ce que l'équipe a dégagé? Ce qu'elle dégage quand elle perd après avoir ouvert le score au Bernabeu il y a 2 ans, elle dégage cette impression de se chier dessus, de pas être dans le combat, de disparaître. L'année dernière contre le Bayern, c'est pareil. L'équipe ressemblait à rien. Neymar, il était allé faire les tournois de poker. Il était blessé. C'était une catastrophe.
Non, mais là, on
perdre n'est pas un problème.
Sommet, hein.
Dans le foot, perdre, ça ne doit pas être un problème. Gagner, perdre, tout. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu offres aux gens qui viennent te voir? Et là, moi, mais en tout cas, j'en étais convaincu dès le début de la saison. On allait avoir une belle saison. On a une belle saison.
Dans un instant, Sili donnera son avis au 32-16. Et ensuite, on oubliera le PSG pour parler de la course à l'Europe en Ligue 1, la course en maintien, la sonorisation des arbitres, plein d'autres sujets encore Ligue 1 dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC. Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le match.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3
peut-être ils avaient besoin d'entendre une nouvelle.
Ouais. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ah, ce générique qui nous permet de réentendre la douce voix du grand Franck Leboeuf. Eh oui. Il a amené Strasbourg au firmament du football français. Et aujourd'hui, brûle les planches, comme on dit. D'ailleurs, ça me fait penser que l'after revient sur scène.
Absolument. Fort du succès au Trianon,
oui.
Tu veux dire?
Oui.
Ah bon? C'est quoi? Alors, quelle est la prochaine
date? Ah bah là, on double.
Alors,
Zénith?
Non. Ah, Salle Pleyel.
Le Zénith, c'est 6000. Salle Pleyel.
Salle Pleyel, quand même.
Et ensuite, nous irons ailleurs qu'à Paris. Parce qu'il faut... Je tiens à ce que.
Et après, Alençon vous attend, les amis.
Très bien, pourquoi pas.
Alençon vous attend.
Enfin, tout pourquoi est ouvert pour les autres villes de France. Et il y a Reparis, c'est quoi? C'est en octobre?
Oui, 11 octobre.
Voilà.
On reparlera du Gacheton pour Alençon, parce que c'est petit moyen quand même. Hein. On n'a pas les moyens de Monaco, qu'on a battu en finale de Coupe de France de basket quand même.
Ah, on n'a pas parlé de...
on est là pour te faire plaisir.
On n'a pas parlé d'aller à Monaco. Alençon, je ne sais pas, le maire est sympa. Ça vous serez une de
très sympathique.
Relations.
Non, tout, Alençon est une ville très sympathique. Vous serez bien reçu.
Quelle couleur politique, le maire d'Alençon?
C'est compliqué, les couleurs politiques aujourd'hui, Daniel. Ah. Historiquement, PS, je ne sais pas trop ce qu'il est aujourd'hui.
L'after remonte le temps, donc les réserves sont ouvertes. Hein, si vous voulez vous joindre à nous le 11 octobre. Sylvie est là au 32-16. Salut Sylvie.
Salut, comment allez-vous? Salut Gilbert.
Salut
Daniel. Salut Stéphane.
Salut Sylvie.
Ah, ça fait du bien de vous avoir. Hein, parce que je veux vous dire quelque chose. Vous êtes pour moi la meilleure émission. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai mentionné Bassur l'after. On m'a même critiqué. Pourquoi t'écoutes cette émission? C'est pourri, tout ça.
Non. À qui t'as dit ça?
Je vous ai mentionné et bon, il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est pas grave.
Oui, mais ça c'est une poignée de haters un peu jaloux et qui ont le seum.
Merci.
Vous n'allez pas ébranler comme ça la méga confiance de Daniel Riolo.
De temps en temps, on agace les gens, mais le truc c'est.
Ah ouais, je vais vous avouer un truc quand même.
On est là, quoi.
J'adore. Écoutez les émissions que je n'aime pas.
Ah bon?
Ah oui. Ah oui. Mais tu sais que l'indignation est un plaisir.
Ouais, c'est vrai, c'est une forme de.
Ah mais voilà.
Ouais, mais ça dure pas. Tu le fais et tout.
Ah écoute, je t'avoue qu'il y a certaines émissions.
Non, il faut surtout apprendre un truc, Daniel, ce qui est pas facile pour toi peut-être, c'est de penser contre soi-même.
J'essaie de
pratiquer moi-même avec beaucoup de difficultés et je m'en reprends chaque semaine à la messe.
C'est fou de se rendre compte, de pas se rendre compte que c'est justement ce que je fais. Je passe mon temps à penser contre moi-même pour m'apercevoir au final que j'avais raison. j'ai fait l'effort.
Ça c'est le plus beau des jingles de Daniel Riolo. Il faut le garder.
Mais j'ai fait l'effort de passer de l'autre côté de la rive. J'ai pris ma barque, je suis allé de côté de la rive et puis je suis revenu à la maison.
Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier
pour Sylvie, Daniel? Merci pour tes compliments en tout cas. Et
non, mais c'est normal.
Tu as la parole pour parler de Paris maintenant.
Vous savez qu'avant que les Qataris rachètent le PSG, on avait l'habitude, nous supporters parisiens, de souffrir au mois de novembre. Et quand les Qataris ont racheté le PSG, on avait l'habitude d'avoir une tendinite, la diarrhée, des maux de gorge, des maux de ventre, au mois de mars, au mois d'avril. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en paix. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être serein. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas senti cette excitation. Là, on est tellement serein, mais je me dis, est-ce que d'être trop serein, est-ce que ça va pas nous porter préjudice? Parce que, vous savez, il y a quelques années...
Tu veux dire que c'est louche qu'il n'y ait pas une crise ou une affaire qui traîne?
Gilbert, si tu t'en souviens bien, il y a quelques mois, tu étais le seul à dire épisode 17 sur le PSG, épisode 19,
L'été dernier, il a quand même réussi l'exploit de mettre le meilleur joueur du monde dans un loft.
C'est vrai, mais là, franchement, il faut dire la vérité, tous les voyants sont au vert. J'ai envie de me dire, j'ai pas envie d'être trop serein, parce que je m'en rappelle, il y a quelques années... contre Manchester, quand on a perdu contre les Minots, en gagnant au match aller, c'est bon, on va passer. Pareil, le 4-0 contre le Barça, c'est bon, on va passer. Donc là, on joue contre Dortmund, on est favori. Mais si vous vous en souvenez, je pense que Daniel, tu es l'un des seuls à le dire, le vrai problème du PSG depuis quelques années, c'est pas l'équipe, hein. Bon, c'était le mental.
Cette année, je crois qu'on l'a pas assez dit. Il faut le répéter, parce que c'est quelque chose qui culturellement dans le football n'existe pas trop. Mais Luis Enrique travaille avec un psy qui a fait beaucoup de bien à l'équipe.
C'est ça. Et moi, je pense que si le mental il est au maximum, hein, il peut même nous manquer même Dembélé, on ira jusqu'au final. Si le mental il est au maximum, Pour moi, si le mental est au maximum, on ira jusqu'en finale. Ah bon. Oui, et je pense surtout.
Tu crois que c'est une affaire de mental contre le Borussia?
Oui.
Ah ben oui, à 100%. Oui,
le, oui. À ce niveau, le sport, c'est ça.
Juste, mettons-nous d'accord quand même sur un truc là. Match retour à Paris, vu l'état de forme de Dortmund, tout, ce serait quand même une énorme déception, un bide de pas aller en finale.
Bide, j'en sais rien, mais déception, évidemment que tu serais déçu. Qu'est-ce que un tu veux bide, faire? Mais après, si t'as tout donné, qu'est-ce que t'es déçu? Puis t'es déçu, c'est pas grave. Voilà. C'est pas ça. C'est, ça vaut pas les déceptions des éliminations où t'avais l'impression que l'équipe c'était des cadavres sur le terrain, où t'avais été humilié et tout. Là, tu seras pas humilié. Tu seras pas humilié, je suis convaincu que tu ne seras pas humilié. Je n'exclus pas l'élimination parce que c'est du foot, parce que Dortmund est une équipe. J'entendais un journaliste allemand récemment qui disait cette équipe c'est Kinder Surprise, on sait jamais ce qu'on va trouver dedans.
T'as piqué le concept.
Moi, je pense qu'il m'a cité d'ailleurs, oui, ce journaliste allemand. Et c'est vrai, on sait pas trop, tu la regardes jouer, ce qu'elle a fait contre l'Atlético au match retour, attention, c'était énorme. Hein. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Atlético, il faut leur en coller des buts comme ça. Hein. C'est une bonne équipe. Hein. Ouais. Donc oui, c'est possible. Mais comment ne pas croire à fond, avec l'état d'esprit que dégage cette équipe, que tu peux le faire? Je suis sûr que Mbappé va répondre présent. Et avec ce gars-là, ben voilà, tout est possible. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Et de plus, ça veut dire qu'au match retour, tu gagnes, tu te qualifies en finale. 4 jours après, tu fêtes le titre contre Toulouse. Mais pour moi, c'est la meilleure année de l'ère Qatari. Donc là, avec tout ça, non, là, je suis désolé. Ils sont obligés de gagner. Pour moi, c'est le match le plus important. Et de plus, c'est que comme par hasard, quand on dit tous les voyants sont au vert, comme par hasard, aucune blessure.
Non, mais ça, alors ça, en revanche,
c'est aussi parce que t'as des joueurs qui sont des professionnels. Hein,
ça, en revanche, c'est un. Enfin, pardonne-moi, mais ça, je comprends pas quand on dit ça. Mais c'était qui les autres blessés avant? Ça n'avait rien à voir avec la gestion de l'équipe ou pas. C'est des mecs qui faisaient n'importe quoi à côté. Quand il te manquait Verratti à 50% ou Neymar à 50%, c'est parce que c'était des mecs qui en avaient rien à cirer. Je le répétais sans arrêt, les gens voulaient pas entendre. Des mecs qui n'en avaient rien à cirer du club, qui jouaient les amoureux du club, les machins, les passionnés, mais ils faisaient rien pour être performants. Donc voilà.
Moi j'ai juste un peu peur, c'est il y a un joueur vraiment je suis pas serein, c'est que Donnarumma.
Ah oui, bah ouais, il va jouer pleinement.
Côté allemand, ils doivent se dire la même chose, hein, avec leur défenseur, avec un Hummels qui parfois est un peu vieillot et tout.
Et quels sont les joueurs de Dortmund que tu aimerais avoir au PSG aujourd'hui? Pose-toi cette question là déjà avant ce match là.
Dans le milieu de terrain, si j'associe Vitinha, Sabitzer et Zaire Emery,
direct.
Ouais, voilà, Sabitzer, je le prends. Attends, ils ont des bons joueurs hein, quand même. Hein,
Ah oui, hein. Moi, franchement, comme un joueur comme Sancho, je le prends à la place de Solaire et de Solaire tous les jours. Hein.
Ah ouais, tu le prends pour être sur le banc.
Après un joueur qui joue pas,
il le prend pour être sur le banc.
Non mais Sancho, leur ligne d'attaque, à part Mbappé qui est au-dessus, clairement, leur ligne d'attaque.
Dembélé aussi, Daniel, ils ont pas de joueurs comme Dembélé à Dortmund en ce moment. Dortmund, c'est son cinquième en Bundesliga, c'est pas non plus, c'est quand même.
Alors,
je suis d'accord avec toi, mais ce Dortmund-là, quoi. Oui, mais... Le Dortmund, quand ils battent le Dortmund de Haaland, là, il y avait des joueurs qui sortaient du lot.
Sur
Sancho, à cette époque-là, il faisait peur.
Sur un match, Adeyemi, Sancho ont assez de qualité pour être supérieurs au nôtre.
Oui, si.
La durée, effectivement, ce sont des gars qui ont l'air un petit peu moins réguliers. Mais honnêtement, les qualités de vitesse, Adeyemi, Sancho, même comment il s'appelle l'attaquant, la Fulkrug, là, je sais plus comment il s'appelle.
Fulkrug s'appelle comme voilà. Ça.
Ah, exactement.
Brandt
peut jouer. Les trois du milieu, Emre Can, c'est un très bon milieu de terrain. Sabitzer, non, ils ont une bonne équipe. Sur la durée d'un championnat, c'est une équipe qui peut perdre pied, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en proposant parfois des matchs pas loin d'être cata. Polo n'arrivait jamais réellement à nous décrire ce dont était capable cette équipe. Mais sur un match comme ça, sur un aller-retour, les gars motivés, la qualité, ça s'oublie pas. Et Adeyemi, Sancho, ça peut être deux mecs de côté qui peuvent faire très mal.
Je remercie Sidi au 32-16 et on accueille Salim. Bonsoir Salim.
Bonsoir l'équipe, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, moi je suis pas d'accord avec l'avis de Stéphane. Moi je suis pas du tout d'accord parce que le championnat cette année pour moi ça a été compliqué parce qu'il venait d'arriver le coach. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été parfait à chaque journée hein, la composition à Clermont voilà, ça n'avait ni queue ni tête, pareil pour la compo à Newcastle, il y a pas de problème. Mais les années Tourelle n'étaient pas meilleures que celles-là actuelles. Tuchel, il faut savoir qu'il est mort le soir d'un comeback. Après, on avait vu à Nantes, on avait vu le 5-1 à Lille, on avait plus vu Paris prendre 5-1 depuis Sedan en championnat. Il y avait Kurzawa qui demandait les consignes sur le côté. C'était ridicule, il y avait des problèmes de communication entre le staff et les joueurs.
On le sait ça, mais c'était aussi dû à un groupe qui était ingérable. Rappelle-toi des propos de Tourelle en partant. Ici, je fais de la politique, il va à Chelsea, il gagne la Ligue des Champions.
Ouais, mais Daniel, rappelle-toi bien qu'il était sur un piédestal après la victoire à United. Je t'assure qu'il est mort le soir du comeback. Tout n'est pas parfait dans notre club, encore une fois. Je suis pas d'accord avec cette année-là. Je me souviens, Nasser Khelaifi avait dit, ouais, Michael Jordan est supporter du Paris Saint-Germain. On avait signé le contrat avec Jordan.
Oui, bien sûr, c'était le boxon. C'était le PSG qu'on n'aimait pas. C'était le PSG qui parlait à tort et à travers.
Oui, mais Tourelle, avant le comeback, il était sur un piédestal. Personne lui mettait les bâtons dans les roues. Rappelle-toi, c'était la calinothérapie, etc.
Oui, mais bien sûr, j'en ai parlé plein de fois.
Et donc, eux aussi, ils ont leur tort. Aujourd'hui, moi, quand je vois Luis Enrique, alors comme je te dis, c'est pas parfait ce qu'il fait. Hein. Mais avoir des joueurs polyvalents, proposer quelque chose tactiquement, retranscrire tout ce qu'il travaille la semaine, il arrive à le retranscrire le week-end, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors c'est sa première année. Hein. Je suis pas en train de, c'est pas un jugement définitif. Mais le mec, moi, je vois des choses, des joueurs qui jouent à plusieurs postes. Kanginli, moi, j'ai vu Dembélé au milieu de terrain. À la Real Sociedad, j'ai vu un Dembélé sans ballon métamorphosé, le mec réduit les distances de passe, le mec il, tactiquement il est intéressant, des petits jeunes comme Barcola.
Et ça on est tous d'accord là-dessus, mais encore une fois, moi les entraîneurs que tu as cités n'ont pas eu la chance d'avoir un vestiaire purifié. Ça mais change Daniel, tout. Ça change tout quand t'as un vestiaire purifié.
Un vestiaire purifié, puis un président qui fait pas l'équipe dans le dos de l'entraîneur, quoi.
Voilà, et qui est pas là pour écouter les, tu te souviens tout ce qu'on disait? Le joueur, il appelle directement El Khelaifi.
L'affaire Aurier, elle est quand même, incroyable.
Ouais, c'est
on a eu une histoire tourmentée, hein. Faut pas oublier tous les épisodes, hein.
La saison 15-16, je suis d'accord avec Stéphane qu'elle est énormissime sous Laurent Blanc en championnat et en coupe, etc. Et que oui, l'affaire Aurier avait pourri le quart de finale, que ce soit à l'aller ou au retour. En plus, j'y étais là-bas assis avec le 3-5 et tout. Mais c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que, en fait, aujourd'hui, il faut se rappeler que Tuchel et Emery, ok, c'est des bons coachs, jamais dit le contraire. Mais Tuchel, avant la remontada, avant la remontada et Tuchel avant le comeback, ils étaient sur un piédestal. Il n'y avait pas, en fait, tous ces problèmes-là. Les problèmes sont venus après. Et rappelle-toi, Daniel, entre l'aller de Dortmund en 2020 et le retour de Dortmund, tu demandais le départ de Tuchel. Et j'étais d'accord avec toi parce que tu pensais qu'il était mort le soir du comeback et que c'était irrattrapable. Donc, ces gars-là, ok, ils ont eu des problèmes par rapport aux directions de ces années-là et par rapport à la présidence de Nasser Al-Khelaifi quand il se mêlait du sportif, ils faisaient n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais il y a aussi leur faute à eux, au PSG. Ils n'ont pas su aussi se mettre dans leur meilleure disposition pour aborder les matchs retour.
Oui, bien sûr. Bien, voilà. On est d'accord. Et personne ne dit le contraire de ça.
Responsabiliser. Mais cette année, tactiquement, ce que je vois... Enfin, moi, j'ai vu ce que Tuchel a fait d'Nkunku. Je regarde, par exemple, ce que fait Luis Enrique de Barcola. Ce qu'il arrive à faire d'un mec comme Mayulu, même si je ne veux pas juger parce que c'est trop peu de matchs, mais ce qu'il fait de Warren Zaïre-Emery, voilà, mais ça n'a rien à voir. Je suis désolé, c'est un au-dessus ce que fait Luis Enrique. Alors je vais pas rentrer dans le détail tactique parce que ça prendrait plusieurs minutes, mais franchement, force est de constater que ce coach-là, je dis pas que ça va être parfait, qu'on va gagner avec des champions et tout, je ne sais pas. D'ailleurs, ça, personne ne le sait. Mais en championnat, on n'a qu'une seule défaite, malgré tous les matchs nuls.
Ouais, t'as 10 matchs nuls quand même, t'as 10 matchs nuls sur 30 matchs.
Mais on n'a qu'une seule défaite. On a qu'une seule défaite.
Mais qu'est-ce que tu veux dire au fond? J'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire.
Ouais, le PSG qui gagne le titre cette année, c'est le plus beau PSG que t'aies vu, quoi.
Alors, je vais pas te dire, c'est parce qu'il y a débat entre 15-16 et suite cette année, aussi celui de 17-18. Donc ça, je peux pas m'avancer. Mais par contre, on ne peut pas dire que les équipes de Tuchel étaient meilleures que celles de cette année. Non.
Personne n'a dit ça.
Si, Stéphane, si. Stéphane a dit
ça. Moi, j'ai dit que j'ai vu. Non, j'ai dit que j'avais vu des saisons. Moi, je parle du championnat.
Moi, j'ai dit qu'il y a eu des entraîneurs très bons, mais qui n'ont pas eu la chance de travailler dans les mêmes conditions.
Des titres du Paris Saint-Germain avec une qualité de jeu bien supérieure à celle de cette année. Oui, oui, oui.
Jamais aucune année où la qualité de jeu du Paris Saint-Germain en championnat était meilleure que celle de cette année. Aucune.
Honnêtement, moi, franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère, m'arrêter sur l'impression générale qui est dégagée et le lien avec le public plutôt que de savoir si pendant les 6 premiers mois de Tuchel qui ont été vraiment que j'ai beaucoup beaucoup aimé, c'est mieux que le dernier mois de Luis Enrique ou le début de saison de telle ou telle saison. La vérité, tu veux que je te dise, jusqu'à la Coupe du Monde Qatar. les premiers mois de Christophe Galtier, en termes de jeu, ils sont plutôt pas mal du tout. Oui. Si vraiment on doit dire la vérité. Et pourtant, cette équipe, ben, elle ne ressemblait à rien parce que tu avais un coach qui faisait pas grand chose et s'était pris en main par des joueurs et notamment deux qui ne pensaient qu'à une seule chose, préparer la Coupe du Monde et qui n'en avaient rien à tamponner du PSG. Donc c'est ça la vérité. C'est que jusqu'à novembre 2022, ce début de saison, franchement, il est fantastique en termes de jeu. Mais pourtant, moi, personnellement, l'idée que des joueurs dans cette équipe se foutaient du club et ne pensaient qu'à leur tronche, ça ne m'intéresse pas. Donc parfois, tu vois, la qualité de jeu, là, c'est aussi relatif par rapport à ce que tu dégages plus globalement, quoi, tu vois.
Alors, je remercie Salim au 32-16. J'aimerais vous donner des infos.
En ce moment, ils sont en plein surkiff.
En vue du match d'après-demain.
Et c'est pas la folie ce qu'ils proposent en termes de jeu.
Après-demain, Nuno Mendes devrait être opérationnel. C'est ce que nous dit Fabrice Hawkins aujourd'hui. Il y avait une incertitude le concernant. L'équipe devrait être donc la suivante, à confirmer demain. Hein. Donnarumma, défense, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes.
Ouais.
Milieu, Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz.
Ouais.
Et devant, Dembélé, Mbappé, Barcola.
Ah, bah donc il y a une équipe type alors maintenant. Et ça rejoint 4-3-3 alors. Ah, bah, c'est bien alors. C'est bien.
Voilà. Au milieu, tu dis Zaïre Emery, Vitinha.
Moi, je suis content. Et Ruiz, ce qui est devenu l'équipe type. Mais comme il paraît qu'il n'y a pas du tout
à
d'équipe type.
À vos amours,
type,
Gilbert.
Merci.
Comme il n'y a pas du tout d'équipe type et que tout chamboulé, c'est bien, bah non, je m'aperçois.
Oui, bon, enfin, je te redis ce que je t'ai dit la veille du match.
Je suis très heureux du match qu'un 4-3-3 tout simple, avec les meilleurs joueurs et tout, ça passe. Bon, très bien.
Je te redis ce que je t'ai dit la veille du match à Barcelone.
Je voudrais juste rappeler quand même que Gonzalo Ramos est en pleine bourre et que probablement il rentrera dans le match.
Oui, il sera. D'ailleurs,
je ne sais pas, mais c'est un joueur qui est très
efficace. Il est demain à la conférence de presse, donc en général, c'est signe.
Et je suis absolument ravi de ses performances. Depuis le début de la saison, je le kiffe. Donc voilà.
Oui, non, tu voulais dire un autre truc, Stéphane ?
Non, mais je voulais dire ça, que Rabot, je pense quand même qu'il peut, il peut être titulaire. Et que, malheureusement, c'est, encore une fois, ça vise surtout pas Fabrice, hein, qui fait un travail remarquable, mais en général, depuis que je participe à ces émissions,
oui, souvent,
l'émission du lundi, l'équipe du lundi et du mardi n'est jamais celle que je vois alignée. À une exception près ou deux, hein, c'est pas non plus...
Si au moment d'une demi-finale très importante, on retombe sur nos pattes, j'en serais ravi.
Moi, je serais surpris que Ramos soit pas titulaire quand même, avec le match encore qu'il a sorti samedi.
Plus d'infos demain, on sera en veille de match. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que tous les matchs de Coupe d'Europe seront sur RMC, avec la libre antenne également, qui sera là mercredi et jeudi, après l'after, pour continuer le débat.
Sur l'OM et le PSG.
La libre antenne de l'after. Tu fais quoi comme match cette semaine, toi?
Je fais le Bayern demain. Bayern, ouais, Bayern-Real demain, c'est quand même sympa. Et Leverkusen-Roma.
Tu deviens spécialiste du Real, dis donc.
De super affiche.
Ça va.
Bayern-Real, c'est un grand classique de la Ligue.
Tout va bien, les amis. Je me plains pas, il n'y a pas de problème.
Et ben, on analysera ça demain soir ensemble. Dans un instant, la Ligue 1, la lutte pour l'Europe, la lutte pour le maintien et les chiffres des buts marqués. La Ligue 1, les gars. Ah, vous allez le voir dans quelques instants. Bat des records. Je vous explique pourquoi dans quelques secondes.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h23. Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là. Alors, c'est vrai que ce week-end, on a éclaté le nombre de buts marqués en Ligue 1. Vous êtes au courant quand même, ça vous savez. Avalanche de buts, une première depuis 1976. 40 buts ont été inscrits. Deuxième plus gros total de l'histoire du championnat de France. C'est arrivé à la 38e journée lors de la saison 2007-2008. Il y avait alors eu 43 buts.
On a une très belle fin de championnat avec du suspense un peu partout. C'est le moment d'aller vendre la Ligue 1. Le problème, c'est que c'est vendu et que ça ne va pas être dingo. Parce que quand même, la grosse tendance, évidemment, je l'ai dit mille fois, je vais le redire, donc que c'est Bein avec un Boucanal en distrib. Mais surtout dans la négo, là, ce qui bloque en ce moment, pardon pour cette parenthèse, hein, je reviendrai à la qualité de la Ligue 1, c'est que Bein dit, ok, on va mettre l'oseille, mais dans la distrib de l'oseille, on veut qu'une grosse partie aille dans les poches du PSG. En même temps, c'est normal, puisque ça passe de la poche droite à la poche gauche. Donc, je trouve pas que ce soit très heureux de la part du PSG de demander ça, un peu comme condition, Bein, hein. Mais c'est peut-être la direction qu'on est en train de prendre.
J'ai pas
déjà
dit, mais
CVC, le gros bout de gâteau, c'est le PSG qui l'a pris. C'est pour les droits, on casse un peu la traditionnelle répartition.
Au-delà de l'accord sur les droits étrangers, tu veux dire sur les droits nationaux, il réclame aussi un prorata qui irait.
Je pense que ça peut. Ouais. Qui serait.
Ce qui se murmure. Une rupture d'égalité assez incroyable. Quoi.
D'un point de vue stratégique, même si je suis président du PSG, je trouve que c'est absurde parce qu'il faut que le championnat soit compétitif. Bon, il l'est cette année, clairement, mais pas pour le titre de champion. Il l'est pour toutes les autres places. Voilà.
Bah, ce serait scandaleux surtout. Enfin, moi, je trouverais ça scandaleux. Si c'est malin, est enfin,
sauf si c'est soyons... ça ou rien. Sauf si c'est ça ou t'as que dalle.
Ouais, enfin, c'est un fiasco total. Si c'est ça ou que dalle, c'est que ceux qui sont en charge du dossier n'ont pas très bien travaillé.
On n'est pas forcément très loin de ça.
Ou alors, on en arrive à ce que quand même beaucoup. Dont moi pense. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, hein, c'est le suspense en Ligue 1, il est très, très relatif, et la seule certitude que tu as.
Le suspense, il n'existe pas pour le titre. Il existe pour 2, 3, 4, 5, 6, maintenant même jusqu'à 7. Et pour
mais ça impacte forcément l'intérêt pour ton championnat, Daniel.
Moi, je suis bien d'accord. Moi, je suis pour une répartition égalitaire au moins à 50%.
Ce qui manque,
des droits.
Pour revenir à notre débat précédent, ce qui manque à ce titre-là du PSG, c'est la concurrence. Oui, c'est qu'il y a eu un vrai rival.
Oui.
Est-ce que le PSG, avec le Lens de l'année dernière, de cette année-là, aurait été champion? Sans doute pas, je ne sais pas.
Oui,
voilà.
Oui, non,
voilà
bien ce qui manque. Bien sûr.
Vous connaissez la moyenne de buts en Ligue 1 cette année ?
Par match, tu veux dire ?
Oui, la moyenne de buts, vous savez,
deux buts et demi par match.
2,66.
Ah, c'est super.
Très, très bien.
Alors, les Anglais restent en tête. D'habitude, c'est les Anglais et les Allemands en tête. Hein. Là, cette année, c'est les Anglais avec 3,26. Les Allemands sont à 3,17. Mais nous sommes devant l'Italie et l'Espagne.
Alors qu'on était souvent à la traîne.
Alors clairement, c'était toujours dernière, mais en général, de très, très loin. Voilà, bon, donc c'est quand même aussi un signe, ça.
Ouais, très bien.
Voilà. Je voulais vous le dire.
Ah, quand tu vois le match d'hier, enfin le Lyon-Brest et le Brest-Rennes d'hier, enfin le Rennes-Brest, écoute-nous des matchs comme ça, on en veut toutes les semaines. Hein. C'est fantastique.
Bon, Florent Gautreau n'est pas là pour nous ressortir ses grandes théories sur les défenseurs et la baisse de niveau global des défenses.
Oui,
en
Ligue 1. Qu'il y ait une baisse de niveau global, moi je veux bien, on peut débattre de ça, mais après tout, à quoi bon? Quand on parle de la Bundesliga, on sait très bien que tout est fait pour qu'il y ait beaucoup de buts en Bundesliga. Pareil, on dit que
un mec
en Ligue 1 qui n'enfile pas de buts, il va là-bas, il enfile des buts. Bah oui, puisque on a raconté mille fois qu'il y avait des primes qui étaient très grosses
même
sur les victoires et pas pour les matchs nuls. Donc il y a peu de matchs nuls. On a développé un modèle tout pour l'attaque en Allemagne. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre après tout? Ça les empêche d'être performants. Ils ont le Bayern, Dortmund et Leverkusen en demi-finale des Coupes d'Europe. En quoi c'est un handicap?
Non, et puis surtout hier évidemment, si tu regardes d'un point de vue organisation défensive, le Rennes-Brest, tu trouves ça par moment assez affligeant, mais en même temps, quel kiff on a tous pris.
Mais
à
mettre des buts, ça donne confiance. Mettre des buts, ça donne du plaisir, ça fait plaisir aux joueurs, ça les fait kiffer.
C'est quand même un peu la raison d'être du foot, quand même.
Exactement. En quoi ce serait un problème? Ok, on a baissé en défenseur. Et alors? Moi, je m'en tamponne complètement qu'on ait baissé en qualité de défenseur. Les défenseurs, tout le monde dit en Allemagne, ouais, tout le monde enfile des buts, machin, machin. Ben, regarde le résultat en Coupe d'Europe, parce que c'est un problème. Ils sont en train de faire mieux que les Anglais. Oui ou non? Les Anglais, cette année, en Coupe d'Europe,
meilleur avec les Anglais, bien sûr.
Voilà. Stéphane est là au 32-16 pour évoquer cette Ligue 1 de cette année. Et Stéphane est supporter du Havre. Salut Stéphane.
Oui. Bonsoir à tous.
Moi aussi.
Merci de m'accueillir.
Non, tout pour quand, toi, que tu
racontes? J'aime les clubs normands. J'espère que le Havre va se maintenir.
Stéphane, on peut être pour quand et pour le Havre?
Oui. Bah, moi, je suis d'Alençon, donc je suis ni de Caen ni du Havre, mais j'espère que le Havre va se maintenir en Ligue 1, bien sûr.
C'est gentil, Stéphane.
Bien sûr.
Bon, bah, Stéphane, c'est sympa. Tu ne qualifies pas Stéphane Guy de footix cadet. De footix normand?
Pas du tout, non, pas du tout.
Je suis un Alençonix.
Vas-y Stéphane, on t'écoute.
Non, mais brièvement, on avait déjà discuté ensemble pour vous dire, voilà, bon, je trouve qu'en ce moment, j'ai la chance d'écouter un peu Rotten le soir, j'écoute l'After, surtout en podcast, et je trouve que vous tapez énormément sur la Ligue 1, surtout les anciens joueurs, les consultants. Alors en ce moment, il y a des critiques acerbes, comme ça, où vous tapez sur des joueurs en particulier, ça y va, sur la Ligue 1 constamment. Alors moi, ce que j'aimerais juste dire brièvement, bon, il est tard, mais c'est que, voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Moi, je suis prof d'espagnol, donc je connais aussi pas mal la Liga. En Liga, il y a énormément de purges cette année. On s'ennuie énormément en Liga. Alors, c'est vrai que si vous parlez forcément du championnat anglais, du championnat allemand, qui sont largement au-dessus des nôtres, d'une autre, et comme je vous l'ai déjà dit une fois, nous, on prend beaucoup de plaisir, même si c'est qu'on va voir que le Havre, le stade est plein, on s'amuse, on est en famille, on voit un football relativement sympathique, mais on voit des belles équipes, on voit quand même des joueurs qui ont du ballon. Moi, j'ai vu, on s'est régalé à voir des joueurs de Montpellier l'autre jour, Titi Savagné au HAC. Enfin voilà, je pourrais vous en citer plein. J'ai vu Lille cette année jouer merveilleusement bien. On a eu de la chance de voir.
Tu sais, Stéphane, moi j'ai l'impression qu'on a été très positif là ce soir.
Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu racontes. En dehors d'une dépression mi-janvier, mi-février, où je me souviens très bien, David, où j'étais pour le coup vraiment la dépression de l'hiver, j'en pouvais plus de voir certains matchs. En dehors de ça, je crois qu'on n'a jamais été aussi positif avec les entraîneurs et les joueurs que cette année.
Oui, tout à fait, Daniel. Alors moi, je te kiffe vraiment dans tout ce que tu écris, etc. Par contre, je trouve qu'il y a du bashing Ligue 1. Par exemple, cette semaine, voilà. Alors si on est clair, moi, quand je vous écoute sur RMC, parce que je vous adore, mais si on parle du match qu'il y a eu à Paris Saint-Germain, Le Havre, si on parle concrètement du 11 de départ du Havre avec les consultants qu'il y a sur RMC, dites-moi si c'était l'équipe type du Havre qui a joué contre le Paris Saint-Germain.
Je ne sais pas pourquoi tu nous interpelles là-dessus. Moi, j'étais pas à l'antenne samedi soir. Parlé du PSG, Le Havre. Donc, si tu veux régler des comptes avec d'autres, appelle-les eux. Mais pourquoi tu nous dis ça à nous?
Pas du tout, parce que on m'a appelé là pour que j'intervienne, parce que Le Havre a joué avec un nouveau milieu de terrain et personne n'en parle, par exemple, pour vous dire que voilà, on a des joueurs qui jouent relativement bien. La Ligue 1, on s'éclate.
Évidemment, Le Havre joue bien. Moi, j'aime beaucoup Lucas Elsner et ce qu'il fait.
Donc je trouve qu'il y a en ce moment, il y a un bashing Ligue 1, alors que je pense que les publics sont, les stades sont pleins.
Mais il n'y a pas de bashing Ligue 1, c'est pas vrai. Tu parles de qui?
Roten toute la journée.
Mais appelle Jérôme pour lui dire, Stéphane, je suis désolé, mais appelle Jérôme et règle tes comptes avec lui. Mais nous, il me semble pas vraiment, cette année, on a rarement été aussi positif. Je te dis, à part vraiment mi-janvier, mi-février où j'étais en DEP. Ça, c'est vrai.
Non, mais j'ai pas souvenir d'avoir entendu Jérôme dire du mal du PSG.
Mais c'est vrai que des fois, je me dis, et comme je vous ai, les gars, non, mais les anciens joueurs en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont contre la Ligue 1, mais c'est fou, quoi. J'ai un grand respect pour eux quand j'entends du gars qui parle de la Ligue 1, mais ne la regarde pas, n'en parlez pas, parlez d'autre chose.
Il a été aussi positif sur Paris tout à l'heure, Stéphane.
Si tu regardes la qualité technique de Marseille-Lens hier soir, c'est quand même assez consternant pour des équipes avec ces moyens-là. Ces pédigrés-là, tu vois, par exemple, mais c'est pas bâcher la Ligue 1 que de dire ça, c'est un constat d'un match.
Ça a été compensé par une énergie et un suspense qui ont rendu le match intéressant.
Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, quand on va au stade, nous, on attend, moi aussi, j'ai joué au foot, etc. On n'est pas forcément, on est content quand même de voir des choses. On attend de l'émotion. Daniel t'en parle souvent. On attend des émotions. Et c'est vrai qu'on va être peut-être moins rigoureux sur le côté de la technique, etc. Mais on attend, on passe un bon moment et ça fait plaisir.
Je suis d'accord. Stéphane, on n'a pas fait cette année, et il faudrait qu'on le fasse, notre petit, comment on appelait ça, là, le hit parade du kiff.
Bah aussi, on l'a fait.
Non.
Si, on a dit que c'était Brest.
On l'a pas du tout réactualisé. Je pense que cette année, on avait du mal à trouver chaque année des équipes pour se classer dans ce hit parade. Je pense que cette année, ça peut se bousculer au portillon.
Brest, ouais. Lyon.
Ouais. Alors qu'ils étaient plutôt en dépression. Ils sont en train de faire une saison.
Lille.
C'est pas une équipe qui fait kiffer beaucoup Lille. Quand même.
Les Lillois, ils sont super contents. Ils ont eu une saison où ils ont joué demi-finale.
Les Parisiens, quand même, cette année. Parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions.
Cette année, je te dis que ça se bouscule au hit parade du kiff. Les supporters du PSG sont contents. Ceux de Lille sont contents. Ceux de Marseille.
La façon dont les supporters vivent leur équipe.
C'était ça, le hit parade du kiff.
Pardon.
C'était, toi, comment tu
vis? De la qualité foot,
Non. C'était le plaisir, le rapport que t'as quand tu vas au stade et tout. Donc, Marseille est en train de terminer sur une note où ils sont tous excités. C'est normal avec demi de Coupe d'Europe.
Lyon, les supporters de Toulouse doivent être contents.
Toulouse, ils ont passé une belle année. Qui on a d'autres? Brest, tu l'as dit.
Lens, oui et non.
Le début de saison, mais là, ils sont retombés dans le hit parade.
Stéphane, merci beaucoup.
Merci à vous. Continuez comme ça.
Salut Stéphane.
Bisous à tous, merci.
Ciao.
Salut Stéphane.
Salut, merci les gars.
À bientôt. Dans un instant, nous, on va faire un point sur la course à l'Europe et la course au maintien, comme un peu tous les lundis. Là, il reste 3 journées, donc c'est important de donner notre avis. Et puis ensuite, on parlera de la sonorisation des arbitres. Je vous explique dans quelques minutes comment ça va se passer, parce que vous allez voir que ça concerne pour l'instant un cas très spécifique. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h36, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Messieurs, avant de parler de sonorisation des arbitres, il faut quand même qu'on fasse un point. On l'a fait un peu rapidement hier, mais prenons un peu de recul là sur ce qui se passe en haut du classement. Parce qu'on peut commencer à avoir des idées assez claires. Et maintenant, il y a même des choses mathématiques hein, concernant la course à l'Europe. Brest, maintenant, c'est fait. Je rappelle que la 7e place sera européenne si jamais le PSG gagne la finale de la Coupe de France. Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure Rennes de la course, qui n'est qu'à 2 points de la 7e place, même si ils sont dans une dynamique qui n'est pas positive là, après la défaite d'hier. Et peut-être que Nice, avec sa victoire, on n'en a pas parlé hier, peut-être que Nice, pour avec moi, sa Nice, victoire à Strasbourg hier...
Pour moi, Nice, ils accrochent l'Europe.
Ils y sont peut-être déjà là.
Et rappelez-vous ce que je vous avais raconté sur leurs histoires en interne.
Ils ont 7 points d'avance sur la 7e place.
Ils gagnent un match. Que derrière la crise, il y a eu le fameux « on s'est dit les choses » là. Ça a fait du bien au club qui était... à ce moment-là, quasi en perdition.
Nice a fait un match très serein hier. Ils ont été menés par Strasbourg et ensuite, tranquillement, ils sont revenus, ils ont gagné.
Exactement. Et moi, eux, ils vont rester dans la zone Europe.
Ils ont 5 points d'avance sur Lens. Et
ils ne vont pas s'écrouler avec voilà, les 5 points et les dilapider en 3 matchs.
Voilà, ils ont une victoire à gagner, un match à gagner sur 3. Voilà. Ça valait.
Donc, tu as quasiment donc, ton.
Nice, Lille, Brest, Monaco, Paris.
Ton podium des 5, tu l'as.
Voilà. Donc, ensuite, il nous reste Lens, Marseille, Lyon et Rennes. Donc, ils sont 4 pour 2 places.
C'est ça. Mais pour les 5 premiers, pour moi, tu les as, là. Pour moi, après, c'est juste 3 et 4 entre d'ordre. Brest et Lille. Ah non, il y a Monaco aussi, on ne sait jamais avec eux, ils peuvent.
Ah bah, ou 2 et 3 entre Brest et Monaco, peut-être aussi.
L'ordre du 2, 3, 4 reste à déterminer. Mais les équipes, t'as ton quintet dans le désordre, quoi.
Les Niçois, qui a priori ne seront pas sur le podium. Hein, parce que là, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Faudrait qu'ils gagnent leurs 3 matchs, les autres s'écroulent.
Ouais, et plus que Nice gagne ses 3 matchs.
Il y a 5 points d'écart.
Ils vont jouer le PSG à domicile, Brest. Mais le PSG, suite à la double confrontation, dans quel état il joue? Écoute.
Alors, Nice a été. En fait, je voulais en venir là. Nice a été très longtemps sur le podium. Est-ce que Nice, qui finit 5e ou 6e, on doit le considérer comme une saison réussie ou finalement une déception vu la première moitié de saison
réussie
sur le podium?
Pour une équipe comme Nice, se retrouver en zone Europe, jouer l'Europa League, réussi à 100%.
Oui, je suis d'accord.
La première partie de saison, ils étaient en surperf. Ils ont vécu la crise dont on a beaucoup parlé. Je suis désolé, là, s'ils terminent dans le top 5, c'est une saison réussie pour les Nice.
Le top 5 sera réussi, quels que soient les clubs qui seront dedans, sera réussi.
Bien sûr. Là tu as des équipes qui peuvent être satisfaites.
Nice finit avec le PSG et Lille, les deux derniers matchs.
Nice.
Et oui, les deux derniers matchs de Nice, c'est Paris et Lille.
Bon, voilà. Avec Lille, ça peut être un truc qui peut ressembler à une sorte de finale pour quelque chose de gros.
Bah, peut-être la 4e place.
C'est à Lille ou c'est à Nice? C'est à Lille.
À Lille.
Ouais. Donc Lille, c'est Lille.
Ils reçoivent Paris, ils vont à Lille. Donc reste à voir maintenant. Alors le truc fou, ce serait évidemment l'OL. Et si l'OL, après avoir été zone de relégation finale européenne,
une saison historique pour eux, vraiment.
L'OL, ils ont un avantage en plus sur tous ces clubs-là. Enfin, tous ont un objectif, mais l'OL, ils sont tendus par la finale de Coupe de France qui est après le championnat. Donc ils ont tous envie de la jouer, tous ils sont tendus par ça. Ça, c'est très, très mobilisateur.
S'ils terminent 7e, ils sont européens, Lyon, quoi qu'il en soit, le finaliste de Lyon.
Exactement. Enfin bon.
Lyon, quand ils font le match qu'ils font hier, aller battre Monaco comme ça, moi dans leur tête, avec la dynamique qui est la leur, la confiance qu'ils ont retrouvée.
Ils viennent de battre Brest et Monaco.
Absolument.
Même si Brest s'est tiré par les cheveux.
Ils ont juste pris, ils ont pris la raclée au Parc.
Ils vont à Lille, ils vont à Lille, là, quand même.
Ah, mais oui, lundi prochain, dans un match décalé. Ouais. Mais excuse-moi, mais Lyon, là, ils peuvent s'autoriser sans problème tout espoir dans cette fin de saison, en tout cas d'être européen, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça va être passionnant, là, c'est tous les matchs qui restent, là.
Lyon, oui. Qui est quand même, on rappelle, ça paraît dingue de dire ça, est la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour, avec Paris.
Après, t'as plein de trucs à regarder.
Le sagisme, ça marche.
T'as Nice et son calendrier bizarre, le fait qu'il aurait décalé le match, c'est-à-dire qu'ils vont se taper 3 matchs en 10 jours, je crois, un truc comme ça.
Là, ils jouent pas pendant 15 jours.
Donc ça va être un handicap, peut-être, à gérer. Il y a des confrontations entre prétendants. Il y a beaucoup
on
de suspense,
on n'a pas la fin de championnat. La plus régulière de l'histoire, hein, parce qu'entre les compos du PSG un peu baroque contre des clubs qui jouaient le maintien, avec ces décalages de journée de championnat, etc. C'est vrai que ça fausse un peu la marche.
Le PSG qui se qualifie pour la finale, je pense que à Nice ils peuvent envoyer une équipe un peu touriste.
Effectivement. Et puis je voudrais quand même également qu'on regarde ce qui se passe tout en bas.
On peut pas dire, parce que je rebondis sur les propos de Bologna, mais l'équipe qu'aligne PSG contre Le Havre samedi. Oui, c'est l'équipe. C'est une équipe très digne du PSG. Enfin,
je comprends pas les coachs qui font ces sorties.
Quand même Belé sur le terrain avec Mbappé.
C'est pour parler. C'est parce que comme ça, ça te permet de mobiliser un peu les tiens, d'entretenir. Regarde, il y a de l'injustice, machin. Ça doit un peu. Je sais pas. En fait, c'est absurde comme sortie.
Ah oui,
il doit y avoir un but derrière. Peut-être de motiver tes joueurs, mais dans le fond, ça rien.
Il glisse en barragiste.
Chacun fait bien ce qu'il veut. Chacun fait bien ce qu'il veut avec ses compos et pense en Ligue 1, tu démarres, t'as 20 équipes, chacun joue sa vie. Tu joues ta vie, tu construis ton aventure et t'en as rien à foutre de l'autre à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu fais de cadeaux à personne et il n'y a pas à faire de cadeaux ou à dire ah « ben, non, contre nous, t'avais mis cette compo, alors pourquoi t'as pas mis cette compo-là ?» Et machin, mais qu'est-ce que c'est, ça? Ça veut rien dire, ça.
Regardons ce qui se passe un peu en bas. Tout va se jouer entre 5 équipes, Nantes, Le Havre, Metz, Lorient et Clermont. 7 points d'écart entre ces équipes-là. Bon, je ne sais pas s'il y a...
Nantes, je ne les mets pas dedans. Je te le dis depuis le début.
Ah Nantes, toi, tu estimes que c'est sauvé?
Pour moi, c'est sauvé.
Ah bon?
Oui.
Bon, d'accord. Ils ne gagnent plus, mais bon, pendant ça...
Ils ont fait un très bon match nul à Montpellier.
Oui, d'accord. Enfin,
oui.
D'accord.
Non, mais mine de rien, Gilbert, compter 3 points d'avance déjà,
c'est beaucoup.
Si tu enlèves Nantes,
c'est beaucoup.
Non.
Mais je te signale qu'on est en train de parler d'équipes qui prennent à peine un point par match de moyenne. Donc, pardon, mais 3 points, c'est beaucoup.
Nantes, ils prennent un point par match, pas les autres.
La pire série de Ligue 1 en ce moment, c'est Lorient. L'équipe la plus nulle qui enchaîne les défaites.
Lorient, ils sont dans la charrette.
5 d'affilée.
Lorient, c'est charrette, et après, ça se joue pour le barrage, et ça va se jouer entre Le Havre et Metz.
Clermont, faut qu'il gagne au moins et 2 matchs sur les 3 derniers.
Nantes, permets-moi quand même de te dire que Nantes joue dans l'ordre Brest, Lille et Monaco.
Ouais, c'est pour ça, bon, je suis pas d'accord avec Daniel. Mais,
L'année dernière, je crois qu'ils avaient un petit peu le même genre de parcours, Nantes.
Est-ce que le mage Comboiré va y arriver une nouvelle fois?
Non, mais ça, c'est le barrage, en plus. Ils peuvent être en barrage, Nantes.
Ah oui. Non, mais il est vrai que Lorient.
Ce calendrier de Nantes, tu peux me le reciter?
Brest, Lille, Monaco.
Effectivement.
Ouais,
ça. J'avoue que le calendrier m'avait un peu échappé.
Il faut un peu le regarder quand même, Daniel.
Mais ils peuvent se faire un barrage et s'en sortir au barrage.
Donc toi, on dit Lorient.
Lorient-Clermont. Donc je t'envoie ma.
On les deux en Ligue 2.
Lorient-Clermont, Charrette. Charrette et Nantes-Le Havre-Metz, ça se bataille pour.
Vous savez quelle est la dernière journée? Lorient-Clermont.
Oui, ça se trouve, ils sont peut-être
les deux en Ligue 2 ou pas.
Ils sont dans la charrette à se jeter des ballots de paille. Hein.
Ou pas.
Il n'y aura rien à jouer entre eux. Bon. Il y aura à se dire, on se retrouve l'année prochaine en Ligue 2.
Voilà ce que l'analyse de l'after ce soir sur ce sujet.
Il y a plutôt de se dire qui on a envie de voir en Ligue 1 l'année prochaine ou pas.
De l'autre côté, c'est Auxerre, Saint-Etienne, ça va monter. Un peu.
Non, mais je parle des clubs qui jouent le maintien.
Ah.
Moi, j'espère que le Havre va se maintenir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà.
Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a une.
J'aimerais bien que le Havre se maintienne.
Une équipe sympathique.
Ouais, puis qu'a bien.
Je vous laisse ce genre d'espoir, je m'en fous.
Daniel s'en fout. T'intéresse pas au peuple, Daniel.
Quel rapport?
T'intéresse à l'aristocratie de la Ligue 1, au Paris Saint-Germain, à ses milliards, etc. Tu détestes les vins du pied normand.
Qu'est-ce qui devrait me conduire à préférer
Mathieu Bonnemer.
Le Havre, Metz.
Je sais pas. Tu peux avoir un cœur. Tu peux avoir.
Non, mais il faudrait que j'ai une attache.
Bah oui, mais
toi, t'as une attache normande.
Par exemple, ton affection pour Loïc Ferry, par exemple.
Charrette.
Voilà.
Non, mais. La Slobologie, quand même. Il t'a fait rêver, la Slobo, avec le Steaua de Bucarest.
Bon, alors,
contre le FC Barcelone.
Le Havre et Metz, sur quoi je pourrais me décider? Écoute, je vais me décider sur la ville. Je préfère Metz au Havre.
Sur la qualité de la beauté de la ville.
Jolie centre-ville, la
beauté méconnue.
Metz, c'est une ville que j'aime bien.
Beauté très méconnue, le Havre. Le musée du Havre est magnifique. Bon, le musée André Malraux du Havre.
Je connais les deux villes.
Le Havre, tout le monde dit que c'est moche. Bon, je ne trouve pas que ce soit moche.
C'est une ville intéressante d'un point de vue architectural.
Ouais, bien sûr.
Pas que ce soit très beau non plus.
Évidemment, tout a été rasé pendant la guerre. Ah. Donc, c'est une ville neuve.
Il y a un très beau musée au Havre. Très, très beau musée.
Voilà, donc tu m'as fait choisir. Donc, pour ça. Mais en même temps, en entraîneur, j'aime bien ce que fait Elsner. Donc, bon. Et puis, ouais, il y a Bodmer.
Ben voilà, tu es convaincu. Allez, dans un instant.
On aime tous ce que fait Elsner, mais Elsner a gagné 6 matchs. Fou. Ils ont gagné 6 matchs, le Havre, cette année. 6 matchs.
Oui.
C'est pas beaucoup.
Ouais, vrai, ils viennent de monter, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1, sinon le plus petit avec Clermont.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Le Havre. Donc voilà, s'ils se maintiennent, ce sera une saison réussie.
Qui était monté l'année dernière, le Havre et qui?
L'an dernier, qui est monté?
Metz, non?
Metz,
tout à fait.
Dur, hein, dur de se maintenir.
Exactement. Allez, dans un instant, la sonorisation des arbitres, on vous explique tout.
La bonne discussion
de comptoir. On va parler de ça.
Ah, pourquoi pas?
Bah, je sais pas. Je m'en fous.
Bah, parce que tu t'en fous que les gens ne s'en foutent pas.
Ah, mais ça va peut-être animer nos soirées de la saison prochaine.
Ah, bah, plus que ça je t'annonce 1000 jingles chaque week-end, on va se régaler. Tiens, d'ailleurs, on a un petit top 50 Steve Savidan. On vous le fait écouter d'ici minuit. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h48, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Avant de parler de la sonorisation des arbitres, je vous ai promis un top 50. Top 50, Steve Savidan, qui hier est arrivé tout ébouriffé juste à la fin du match, à l'antenne, juste à la fin du match Rennes-Brest. Je pense qu'il est encore sous le choc de cette fin de match et il nous a quand même sorti ça.
C'est franchement un match de fou, un scénario de dingue. Et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entendais de dire que bah c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est pas complet, c'est
pas complètement florichon.
Florimichon, il aurait dû lâcher un florimichon, ça passait tout seul.
Du coup, je sais pas, il pensait jambon, il pensait je sais pas, et c'est pas florichon, sacré Steve.
C'est pas florichon.
Paul nous dit qu'on a déjà le jingle sonorisation des arbitres.
Vous voulez un soin? Vous voulez un soin ou ça va aller?
C'est vrai, alors, l'idée commence à dater. Hein. Quand M. Lannoy est encore arbitre.
C'était M. Lannoy avant qu'il soit à la Ligue et qu'il se fasse virer, je me souviens bien.
C'était une finale de.
Ah non, peut-être pas, ou une Coupe de la Ligue.
Non, c'était une finale de Coupe.
Coupe de la Ligue,
oui. Il s'adressait à l'occurrence.
Non, c'était pas à Brandao, non?
Non, pas à Brandao. À Caboret. Caboret.
Donc dans un match de. Bah donc c'était la finale OM Montpellier, non? C'est pas la finale de la Ligue OM Montpellier, ça?
Peut-être possible.
Possible.
C'est aussi de là qu'est venu le fameux j'ai pas touché de Brandao. C'était même soir. Comme quoi la sonorisation des arbitres,
ça
voyez
doit être cette finale de Coupe de la Ligue.
Mais les gars, attention, parce que la sonorisation des arbitres ne concerne pour l'instant absolument pas ces phases de jeu.
C'est-à-dire ?
Je vous explique. Donc en fait, Philippe Diallo a confirmé la sonorisation des arbitres. Il explique qu'il a convaincu la FIFA pour essayer un nouveau processus. En fait, c'est inspiré du foot américain. Les arbitres au football américain. En fait, ce qui va se passer, c'est que les arbitres vont pouvoir parler au moment où ils vont voir les images de la VAR. Lorsqu'un arbitre va voir l'écran au bord du terrain pour consulter les images de la VAR, il pourra se tourner vers le public en étant équipé d'un micro.
Oh non,
pour expliquer.
Oui, je vois ce qu'ils font au foot américain.
Pour expliquer au public ce qu'il a vu et les décisions qui en découlent. En fait, c'est ça.
C'est destiné aux spectateurs du stade. Alors,
c'est une première étape. Et donc, Philippe Diallo explique...
Qu'est-ce que ça changera quand il voudra nous valider le pénalty qu'il a donné l'autre jour dans le Marseille-Nice.
Ah, Marseille-Nice.
Il va dire, j'ai vu que le pied est doux. Et nous, on va être là, mais t'es bigleux en fait, t'as rien vu. T'as vu à côté. À quoi ça va servir?
En fait, les instances estiment...
Mais c'est bidon!
Les instances estiment que quand t'es devant ta télé, t'as plus d'éléments, sans doute, pour comprendre. Et que les gens qui sont au stade, souvent, sont un peu là, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas.
Et les autres devant la télé, ils continueront à dire que c'est de la merde.
Bon, ben, je pense que c'est ça. Mais attention, ce n'est qu'une première étape, parce que Philippe Diallo ne désespère pas de convaincre ensuite la FIFA de pouvoir avoir une intégralité des matchs sonorisés. Un peu comme au rugby, quand on entend l'arbitre qui explique au capitaine, voilà, je vous mets tel truc parce qu'il s'est passé ci, s'est passé ça. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte d'étape 1.
Je ne comprends pas ce que ça va apporter.
Tu estimes que c'est un gadget.
Mais qu'est-ce que ça apporte? Dis-moi ce que ça apporte.
Non, moi non plus, franchement. Enfin,
mais qu'est-ce que ça apporte?
Alors, autant sur le VAR, depuis le début, il n'y a pas photo. Autant là, j'attends quand même de voir, moi, parce qu'en termes de pédagogie, de compréhension des décisions, en fait, ça va humaniser un peu l'arbitre. Ça va montrer que lui, ben, parfois
donc, expliquer
aussi,
une erreur,
il peut expliquer.
D'accord.
Parce que le jour où l'arbitre te dit,
ouais, c'est
monsieur machin,
expliquer que j'ai fait une connerie, c'est mieux.
Je siffle là.
Ça t'enlèvera pas la connerie. Hein.
Oui, mais là, tu peux dire, bah, tiens, ok, je comprends pourquoi il a sifflé. Il n'a pas vu ça, ou alors il était peut-être un peu mal placé, j'en sais rien, mais au moins je comprends. Tu vois ce que je veux dire?
Non.
En termes de pédagogie, j'estime que ça peut apporter quelque chose.
Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que les pédagogies? On est à l'école ou quoi là?
Non, mais...
On a en train de regarder un match de haut niveau.
J'en fais le mot pédagogique,
de
Ligue, on parle
en train
à la CP.
De parler, on a l'impression que c'est Véronique, la CPE, qui va venir. Bon, alors je vais t'expliquer là. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer d'avoir cette explication?
Ah, parce que toi, quand t'étais
au lycée.
Mais
on n'est pas à l'école, il y a pédagogie.
Et qu'on te disait Riolo, 3 heures de colle, tu voulais pas une explication.
Mais à l'école, je suis pas à l'école, je regarde un match de Ligue 1. J'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer un
mais
truc
c'est
qui
le
va.
C'est le principe de la pédagogie, de l'explication. Fantastique.
Non, je comprends pas. je suis pas là pour avoir besoin de pédagogie. Je suis là pour avoir de bons arbitres.
Moi, je dis.
Je veux avoir des bons arbitres, moi. Je veux savoir comment l'arbitre est désigné. Je veux savoir pourquoi on nomme cet arbitre. Est-ce que c'est parce que c'est le pote du patron de la Ligue de Méditerranée ou de je sais pas où? Est-ce que on a nommé Machine parce que c'était une meuf et que ça faisait bien dans le décor? Est-ce qu'on a nommé un tel parce qu'il est compétent? Et pourquoi c'est lui qui était là? Je veux savoir pourquoi Pignard, on le reverra pas parce qu'il a été nul sur un match. Et combien il a pris de punitions?
T'as besoin de savoir.
Et pourquoi il a pris une punition? Et pourquoi on la prend? C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pas, j'ai sifflé penalty parce que j'ai estimé que le pied, il est venu là. Ouais, ouais, t'as estimé, mais t'as mal estimé, mec. Ben, ça change quoi? Je vois pas. Je comprends pas.
Tu sauras pourquoi il a
sifflé. Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas.
Bon, on verra l'année prochaine. Donnons sa chance au produit.
Ok.
En tout cas, c'est un des objectifs de Philippe Diallo. Parce que des fois, ces derniers temps, je disais, tiens, Philippe Diallo, c'est vrai qu'on l'entend pas trop, on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà quelque chose de concret. Voilà.
Si c'est quand tu écoutes, comme vous faisiez à l'époque, la J+1, Stéphane, quand en fait, on écoutait ce qui se passait, mais c'est un petit peu comme si on volait le son. Là, ok. Je comprends.
On a eu des pépites.
Exactement.
Mais si c'est un terrible arbitrage, monsieur Riolo.
Voilà. Ah. Mais la façon dont on veut le faire là, qui en fait simplement pour, en fait c'est une fois de plus
qui en a dit bien plus que
en fait
que bien
histoire,
des choses sur le rapport entre
histoire,
le président de la Ligue et celui du PSG.
C'est en gros pour mettre un pansement sur les futures conneries. On pense que ça passera mieux. En fait, c'est je fais avaler une pilule en donnant une explication en forme de pédagogie. C'est grotesque.
Alors, autre info concernant l'OM et en vue du match contre l'Atalanta, il y a un problème parce que le stade à Bergame est petit. 14 000 sièges seulement. Et donc, bah forcément, le parkage visiteur est forcément limité. C'est toujours 5% hein, du nombre de places disponibles.
Donc 700.
Donc 750 places pour les supporters marseillais qui, évidemment,
c'est pas beaucoup.
Veulent se déplacer beaucoup plus nombreux. Donc, qui
14 000,
râlent.
Bergame.
Ouais. Ouais, c'est pas grand. Hein.
Déjà, est-ce que Brest, ils peuvent. Non, ils peuvent même pas arriver à faire un stade comme ça.
Bah, le truc, c'est que.
Bah, c'est pas le problème de, c'est pas le problème du nombre de places, Daniel. C'est le problème de.
Oui, de la régularité avec
voir s'ils sont.
Ouais. Ouais, bien sûr, j'ai compris. Ouais.
Donc, bah, à Marseille, ça râle, hein, forcément. Parce que, bon, 750 places, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. A contrario, on devrait avoir près de 3000 Italiens au vélodrome jeudi.
Bah, avec, c'est une question de taille de stade, c'est tout. Je bah, ouais, même c'est pas. Il y a pas de cheminée autant que tu veux. Déjà, si le stade, il est pas extensible.
Oui, et alors, pour jeudi, il y a peut-être certaines tensions avec les ultras de la Talenta qui sont pas exclus. Enfin, le match est très surveillé. Voilà. Et on dit même que, attention, si l'aller se passe bien, il y aura pas de problème pour que les Marseillais aillent à Bergame au retour. Mais si ça se passe mal jeudi, ça pourrait être remis en question. Voilà, donc il faut que tout le monde se comporte correctement. Dans l'actu du jour, je voulais également vous signaler autre chose. Tout à l'heure, les drôles de dames en ont parlé, mais c'est intéressant. La majorité des clubs de Première Ligue aujourd'hui se sont entendus pour fixer un plafond de dépenses, calculé à partir des droits de télé perçus par le club le moins bien loti.
Pas compris.
Ah bon, que tu hurles au système communiste, Daniel, je t'explique.
Sachant qu'il y a un système assez égalitaire en Angleterre, justement.
Oui, sur les droits de télé. Par exemple là, la lanterne rouge de la saison dernière, Southampton, avait perçu 122 millions d'euros de droits. C'est déjà, je veux dire, c'est déjà absolument fantastique.
Ouais, c'est plus que le premier en Ligue 1.
Voilà. Et ben le plafond des dépenses sera calculé à partir des droits télé par le club le moins bien loti. Ça s'appelle, on appelle ça l'ancrage. Et donc, ce sera plafonné à 5 fois le montant. Que je vous ai donné.
Ah oui, donc ça va, il y a de la marge quand même.
Ah, on parle de presque 600 millions.
Oui, c'est ça. Mais, de masse salariale.
Mais malgré tout, non, de total de dépenses.
Ah,
attention, total de dépenses. Indemnité de transfert, honoraires versés aux agents et salaire.
Oui, oui, mais donc c'est quand même la masse salariale, ça.
Bon. Alors évidemment, il y a.
C'est pas le budget, c'est pas les budgets sécurité, le budget communication du club.
Il y a deux clubs qui ont voté non.
Manchester City.
Manchester United.
United,
ouais. Et il y en a un qui s'est abstenu, c'est Aston Villa. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Chelsea, qui est quand même le club qui dépense le plus.
A voté oui.
Alors ils se sont abstenus quand même. Mais peut-être ils se sont dit, bon, peut-être ça va peut-être nous aider finalement à faire moins de conneries. Tu vois, bon bref.
Ouais, c'est un système un peu basket US, un peu.
Bah ouais, c'est. Voilà.
Il paraît qu'un agent très influent sur la place du football européen me dit que le stade de Bergame est en travaux. N'oubliez pas cet élément.
Ah, l'agent 001 ?
Non, un autre.
002. Très bien. Barcelone a battu Valence 3-2, hein, je le signale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à but de Lewandowski en fin de rencontre, 3-2 pour les Barcelonais. Et on termine tout de suite avec Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Événement dans Survivor depuis que Survivor existe, c'est-à-dire depuis quelques saisons maintenant, Daniel a enfin gagné un Survivor. Et tout ça en ayant son compte Winamax bloqué. Donc c'est une performance, je peux le dire. Tout le monde avait mis...
Et en deux semaines.
Oui, bah alors il se trouve que tout le monde avait mis Paris ce week-end. Oui, alors évidemment Paris, ça, là, voilà.
Pas moi.
Daniel avait joué Lille à Metz avec alors. Thibaut Leplat, donc tu as gagné avec Thibaut.
Et en deux semaines, ça a été torché très rapidement cette affaire-là.
Survivor le plus rapide de l'histoire.
Je l'annonce. Hein, moi, j'en gagne une seule par an parce qu'après, faut laisser les autres un peu profiter. Donc, vous préviendrez Walid que dorénavant, je lui laisse un peu d'espace.
Très bien.
S'il veut gagner, lui aussi, enfin, s'il y arrive.
Hein, moi, je ne sais pas si on va refaire un Survivor pour trois journées. Gagner, là. Je pense que c'était le dernier.
Et il y a quoi à gagner, en fait?
Du free bet. T'as gagné les.
Ah oui, j'ai mon compte bloqué.
Eh ben, du coup, t'as pas gagné free bet.
Ah, ok, super. Ah,
pose-toi la question, pourquoi t'as ton compte bloqué? Qu'est-ce que t'as foutu?
C'est moi qui me le suis bloqué volontairement. Ah. C'est trop long à expliquer.
Très bien. Ouais. C'est fini, demain on sera là dès 20h After Live avec la Ligue des Champions évidemment, le Bayern face au Real. D'ici là, allez faire un tour sur l'after.media, on a des magnifiques offres avec le code RMC24 pour vous abonner à la revue. Moins de 4€ par mois, 3,90€, c'est donné. Et vous tapez RMC24 dans les offres annuelles et vous aurez une autre réduc. À demain soir, merci Daniel.
Ciao.
Merci Stéphane, bye bye.
RMC, l'After Foot.